sur des phénomènes de synchronisation. En fait, quand on comprend quelqu'un, c'est qu'on fonctionne en même temps que lui sur la base des mêmes choses. Et ce que tu décrivais, moi je trouve, c'est véritablement rentrer en synchronisation avec les personnes avec lesquelles on travaille, par ce travail d'attention, travail sur le rythme, qui avec la voix, les gestes, quoi. C'est vraiment toute une prosodie qui est en train de se jouer là. Et il faut encore que ce vers quoi on veut amener les personnes, les accompagner, il faut qu'ils aient le répertoire moteur. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils soient capables d'envisager eux-mêmes les actions vers lesquelles on veut les amener. Et ça me rappelle, on évoquait la danse tout à l'heure, Anne de Corée et Aya a fait à la Maison de la Danse, je crois que ça s'appelle l'École du spectateur, et elle leur apprend à danser un petit morceau du spectacle pour qu'ils puissent acquérir le répertoire moteur et ressentir les choses au moment du spectacle.
L'échauffement.
Voilà, merci, oui, c'est vrai. L'école, c'est à Valence.
Jusqu'à présent, il me semble qu'on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes objectifs. Enfin, il me semble qu'on est à peu près d'accord sur les objectifs. Par contre, il y a la façon d'essayer d'arriver à ces objectifs qui, à mon avis, peuvent être très, très différentes. Pour l'instant, on a parlé plutôt de médiation, justement, pour le coup. Et pas...
Vas-y.
Et justement, on a peu diversifié ces approches. On a toujours le médiateur un petit peu traditionnel qui accompagne une visite. Voilà. Et il me semble, et c'est ce que tu commences à évoquer, qu'il peut y avoir d'autres façons, d'autres manières d'explorer cette relation à l'œuvre ou essayer justement d'installer cette relation à l'œuvre, entre autres par les artistes, avec les artistes.
Avec les artistes et...
directement d'artiste à...
Directement.
Ce qui ne veut pas dire que le médiateur n'a plus de rôle à jouer. Hein. C'est autre chose.
Mais du coup, aussi, puisque c'était vers ça qu'on était en train de dévier, vers quelque chose qui est de l'ordre de la pratique, enfin d'une pratique.
Un échauffement, par exemple.
Oui, enfin, bon, Denis l'a dit tout de suite. Qu'est-ce que... On peut reprendre quand même un petit peu... C'est assez... Et je vous interrogerai ensuite là-dessus, parce que vous avez dit, si je ne m'abuse, que vous êtes art-thérapeute, c'est ça, donc vous travaillez dans quel genre d'artiste, dans l'institution, par exemple.
Je travaille auprès de publics handicapés mentaux, dans un foyer pour handicapés, et un centre d'accueil de jour pour personnes âgées en début d'évolution de la maladie d'Alzheimer, et dans une maison de retraite pour médicaliser personnes.
Donc en effet, on est dans en tout cas oui, pour certaines des pathologies, dans ce qui commence de faire partir les sujets hors langue, j'ai envie de dire, ou hors langage. Et c'est assez normal, me semble-t-il, enfin en tout cas du côté psy que je peux occuper, c'est long de désapprendre la pollution qu'est le langage. Et si l'enfant a une relation immédiate à ce qui l'entoure, c'est pour ça que tout ce qui est sensoriel est bien plus simple à vivre pour les enfants que pour n'importe quel adulte, sauf éventuellement pour des adultes en état soit de psychose ou soit de, justement chez lesquels le langage n'a pas le côté opératoire qu'il a pour nous. Donc c'est long de désapprendre ça. Et à cette période de l'adolescence et du début de l'âge adulte, c'est là où c'est le moment le plus violent. Donc ça ne m'étonne pas, ça me faisait beaucoup sourire ce que tu disais, Marie-Pierre, que les étudiants demandent comment avoir une relation, une expérience sensitive. J'en connais sans doute un certain nombre de ces étudiants qui savent assez bien comment mettre en jeu leur corps par ailleurs dans d'autres pratiques beaucoup plus dangereuses beaucoup plus dangereuses physiquement qu'une relation à une œuvre. Donc les modalités, ils les connaissent très bien. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inhibition, enfin là en tout cas, enfin d'une peur. Et donc parfois, Anne avait devancé l'appel, c'est qu'il peut y avoir, hormis la manière dont on peut intervenir, qui est du coup du côté de la langue, elle peut ne pas être opératoire tout de suite en premier lieu, et qu'il faut en passer par une pratique. Et c'était au moment de préparation de cet après-midi, c'est une question qu'on s'est posée, puisque de tradition dans notre milieu, c'est que la pratique, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Enfin, que ça n'était pas une voie d'entrée et une modalité de rencontre de l'œuvre. Voilà, en tout cas, oui, en tout cas depuis, depuis 30 ans. Donc, peut-être que vous, vous pouvez témoigner dans votre expérience de quelque chose qui se produit, ou justement, voilà, sans donner de recette, puisqu'on aura bien compris qu'il n'y en a pas, mais voilà, si j'ai été clair, et vous voulez réagir, sinon je continue.
Ça dépend à quel niveau, ça dépend, parce que ça peut aller très loin.
Sur comment, à partir de la pratique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être d'avoir un médiateur qui vient se poser en tiers et en maillon, c'est par la pratique du public, que quelque chose peut se produire. Alors, avec des artistes, vous le faites aussi, Anne doit le faire aussi. Donc,
Oui, enfin, une certaine. Enfin, mais je ne veux pas monopoliser la parole, allez-y. Je nuancerai après. C'est pas la pratique en soi. Hein.
Non.
Parce qu'au contraire, la pratique peut mener à aucune rencontre avec.
Voilà, avec
justement,
ben,
c'est
je
pour
vous
ça.
Laisse vous
décider. C'est certaines pratiques.
Oui, parce qu'en fait, oui, ça m'interpelle énormément depuis quand même quelques bonnes minutes. Parce qu'on est sur un discours vachement in situ, dans les murs. Mmh. Et effectivement, c'est là, et je trouve. D'amener la discussion vers la pratique thérapeutique de François. Voilà, c'est le médiateur, enfin moi en tant que médiatrice, j'ai appris dans des institutions qui portent leur nom, et j'ai eu besoin de sortir, de partir de ces noms-là, de quitter ces noms-là, pour aller vers un public qui peut être intéressé mais qui connaît pas ou qui a pas l'occasion de venir aussi. Et aujourd'hui ma pratique elle est aussi d'aller dans diverses institutions, écoles, centres sociaux, même centres de rétention pour amener l'œuvre vers le public. Et voilà, c'est là où le discours est très très bien, mais justement par rapport au titre, la transmission de l'art aujourd'hui on parle de plus en plus d'événements hors les murs, et je pense que ce genre de démarche en fait partie.
C'est sûrement une des composantes de pluriel, et qui vient justement permettre de voir à quel point les choses ne sont pas figées et évoluent. En effet, cela dit, la question par exemple du musée in situ ou ex situ, elle est posée dès les années 60 par les artistes. Au-delà de ça, on ne va pas se projeter que dans le cadre du travail donné. Après ça, c'est vrai qu'on parlait de médiation, de l'œuvre qui était en... C'était un peu le préalable, en fait. C'est-à-dire qu'on n'allait pas parler d'art en dehors de l'œuvre et de l'artiste. Hein, c'est-à-dire que c'est l'endroit où ça se passe. Mais bon, pour du coup, la pratique telle que l'entendait Cyril et telle que je l'ai entendue, c'est pas tant votre pratique que la pratique qu'on fait partager ou qu'on met en situation au regard de... C'est celle-là qui était posée, c'était est-ce qu'il faut passer par... c'est ce que vous avez évoqué, ce qu'on sait qu'avec les enfants, ça marche de toute façon. Ça a toujours crispé... moi, je vois mes aînés, ça les a toujours crispés, ces histoires de pratique, d'atelier, et toute une génération a dit non, on fera pas d'atelier. Et l'appropriation, pour autant, ça existe. Alors, c'est quoi l'histoire de la pratique dans la médiation?
Alors, là, je ne sais pas. Ça ne va pas très bien répondre. Je peux dire ce que nous, on cherche, ce qu'on essaye de faire, en tous les cas, en mettant un artiste dans une école maternelle, sur un temps long. On a la chance d'avoir un temps long. Hein. C'est 3 années, avec à peu près un quart du temps scolaire. L'artiste est présent à peu près un quart du temps scolaire. L'idée, ce qu'on propose à l'artiste de faire, et encore il faut un moment pour que ça se comprenne, ça se mette en place, et ça marche pas à tous les coups, c'est que l'artiste n'est pas là pour apporter une technique, un savoir-faire, et essayer de le partager avec des enfants. Ce qu'on cherche, c'est que l'artiste, qui est un élément étranger à l'école, rentre dans l'école et il a lui-même un univers artistique et une pratique artistique, une manière de travailler qui lui est propre et qui est différente de celle des enseignants. Et ce qu'on cherche, c'est qu'il intègre, qu'il amène dans l'école son univers et sa manière de pratiquer, de faire projet. Et que c'est, comme il a du ça s'installe petit à petit. Et les élèves sont mis, du coup, en contact avec ça, avec une manière de travailler. Et c'est comme ça qu'il y a une rencontre avec... Enfin, c'est comme ça que va se vivre une expérience esthétique, justement. Et l'objectif, c'est ça, c'est de faire vivre des expériences esthétiques aux enfants. Et derrière, le rôle reviendra aux enseignants, le rôle de travailler sur ce qui se passe, l'explicitation de... c'est bien l'enseignant, peut-être qu'il y aura le rôle du médiateur. Mais il y a vraiment cette contact, cette mise en contact, cette imprégnation par un univers et pas par une technique. Voilà, et pas par une technique. Voilà, je ne sais pas si
j'allais vous poser la question justement, vous, de ce que vous entendez par la pratique et hors les murs. Donc c'est sous quelle forme? C'est vous êtes artiste et vous allez travailler? Est-ce que c'est des ateliers d'art plastique?
Ouais, je le fais là actuellement, je le fais en par la pratique justement en tant que oui, je me positionne en tant qu'intervenante ou en tant qu'artiste. Mais enfin ça, je pense que ça va rebondir avec avec l'atelier de danse. Enfin, apprendre à regarder, je pense que c'est ça la pratique. Amène des clés donc aux enfants ou aux ados ou aux adultes, amène des clés à justement à apprendre à regarder. C'est en fait comment dire, des techniques, il y en a plein, des techniques il y en a énormément, mais c'est vrai que quand on se retrouve devant une œuvre avec avec une théorie, une connaissance quand même carrée dans lequel on a tous été orientés, on peut justement à partir de là, avec notre sensibilité, notre vie et notre culture, la regarder, la comprendre et se l'approprier cette œuvre en tant que spectateur, tout un chacun. Et la pratique, ça donne des clés. Et je pense que même pour le... Pour les tout petits, il y a des choses qui sont très inconscientes qui se produisent. Et après, il faudrait voir si sur un travail sur long terme. Moi, je vois, j'interviens avec des petites 3 ans, d'autres qui en ont 6. J'aimerais les revoir dans 6 ans, ces jeunes-là, et voir qu'est-ce qui a été induit par cette pratique, justement. Mais je pense que c'est...
Je pense que la pratique, elle peut ouvrir à la sensibilité à l'art en général. Mmh. Je pense que le fait d'être passé par une pratique, que ça soit de peinture... moi, j'ai fait des ateliers de cinéma d'animation aussi avec des ados, à un certain moment. Et de quelque chose de très abordable, de très ludique, etc. Et à bout d'un moment, tous me disaient « Ah ben maintenant, on ne regarde plus les films de la même manière. On regarde, on s'intéresse à comment c'est fait, et l'aspect technique les intéressait plus. » Et ils ne voyaient plus ça comme juste quelque chose qui venait à eux et qu'ils incurvent, enfin, pas qu'ils incurvaient, mais ils avaient un regard plus intéressé dessus, sur la façon dont c'était fabriqué, etc. Et ils faisaient lien avec ce qu'ils faisaient dans l'atelier. Et ça, je trouve ça intéressant de faire le lien.
Et les clés de poser, moi j'ai souvent cette réflexion aussi. Ah ouais, je ne vois plus le truc pareil. Et que ce soit en médiation numérique ou en médiation plastique, ça donne des clés. Après,
moi je m'interroge en vous écoutant, parce que c'est des remarques qui sont souvent sujettes à discussion puis à réflexion. Est-ce que quand il se produit quelque chose comme ça, que quelqu'un vous fait un retour en disant je vois plus les choses pareilles, ça se passe aussi en visite, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que la personne a une nouvelle relation à ce qu'il lui est montré ou à ce qu'elle expérimente, ou est-ce qu'elle a une nouvelle relation à elle-même, à ses capacités? Parce que quand quelqu'un nous dit « Ah ouais, maintenant je comprends mieux comment c'est fait », du coup je trouve ça plus intéressant, parce que je comprends la difficulté, l'effort que ça peut représenter, ou « Ah ouais, quand même, ça paraissait simple, mais bon, il s'est quand même creusé la tête ». Enfin, c'est la réflexion qu'on entend souvent, surtout de la part d'un public même très familier d'un lieu, par exemple. Mais du coup, moi, je me pose toujours la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que du coup, parce que moi, qu'est-ce que je suis censée faire? Je suis censée, puisque l'artiste n'est pas là, je parle d'œuvres plastiques qui seraient, par exemple, exposées, hein, pas forcément d'un spectacle ou de quoi que ce soit d'autre, je parle de là où je suis, je me dis toujours qu'est-ce que ça a marché, mais qu'est-ce qui a marché? Est-ce que la personne est contente parce qu'elle elle a une prise sur l'œuvre qu'elle souhaitait rencontrer, et c'est un peu grâce à moi, ou c'est pas du tout grâce à moi, ou est-ce qu'en fait elle s'est rendue compte qu'elle était capable de changer son propre regard, et que c'est l'œuvre qui a permis ça, mais pas vraiment moi, ou alors enfin, savoir à quel niveau le changement s'est situé en fait. Qu'est-ce que c'est qui fait le mieux? Et on n'est pas forcément objectif par rapport à ça quand on est extérieur.
Ouais, moi je me questionne là-dessus aussi. Et ça, par la pratique, il y a une évolution qui est personnelle, une évolution du regard et une évolution personnelle. Elle est inévitable, puisque l'autre pratique, puisque la personne pratique, elle évolue de toute façon intérieurement. Et son regard donc va évoluer.
Il y a des choses comme ça, je ne sais plus exactement où ça s'était déroulé, mais il y avait une sorte de protocole un peu pas similaire à celui qu'on fait là, mais du même ordre, on va dire, qui était une sorte d'injonction au public. Je parle encore d'une exposition parce que pour moi c'est plus simple, mais qui était prière de ne pas sortir indemne, prière de ne pas sortir exactement comme vous êtes dans les cas dans lesquels vous êtes rentré. C'était un jeu de langage, mais c'était aussi pour susciter, peu importe ce que vous avez pensé de l'œuvre, ou peu importe que vous ayez aimé, pas aimé, etc., c'est vous qui allez changer, qui allez vous sentir déplacé un tout petit peu de l'expérience que vous aurez faite avec d'autres visiteurs, ou avec les œuvres, ou avec l'espace, ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que, enfin, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et du coup, un des premiers échanges que vous aviez eu ensemble, c'était est-ce que c'est l'œuvre qui est vecteur, ou est-ce que, de relations entre les individus, par exemple, ou c'est quoi le statut qu'on souhaite quand on souhaite une interaction, quoi?
Les deux.
Certainement.
Et donc, vous aviez quelque chose à dire sur la pratique?
Non, je retournerai à la question, le pourquoi. Je pense que là, on peut dire le pourquoi, non?
Oui, je l'ai noté, disons, mais on était parti sur...
qu'il y a dans la médiation le tentatif, si on peut dire comme ça, de placer des sujets et les mettre, ce qui était en deuxième plan, le mettre en premier plan, donc c'est le sujet qui... en relation avec l'homme, le spectateur, etc., pour que ce soit lui à, d'un côté, refaire l'œuvre, la réexprimer, et de l'autre côté, s'approprier aussi des questionnements qui sont à l'intérieur, pour que lui aussi, à travers la pratique, de la danse, on le fait souvent, vous l'avez évoqué, s'approprier d'éléments pour que lui aussi devienne créateur. Donc, en effet, je suppose, non, qu'est-ce qu'à quoi peut servir la médiation, à créer un sensible vers un public qui voit, et lui permettre aussi d'accéder à ce sensible à travers peut-être des initiations, là, des techniques, pour qu'il lui aussi devienne producteur de sens, de contenu, etc., à partir de son expérience. Donc pour moi, quand je fais des ateliers de danse qui sont en amont ou en aval des spectacles, et je travaille avec des amateurs, c'est pour moi, c'est toujours le défi le plus grand, c'est de déclencher quelque part dans cet amateur qui n'a pas pensé peut-être de professionnaliser, de faire un choix de vie par rapport à ça, de déclencher cette chose-là, cette envie de créer une voie d'expression, d'expression de son monde intérieur, de ce qui s'est ressent. Et après, juste avant, je continue parce qu'après, je suis désolé, je regrette, il faut que je parle. On parlait avant sur l'école, etc., l'enseignement, et je trouve, ma femme, elle a participé à Langage pendant 3 ans il y a quelque temps, donc je suis quelque part de façon indirecte, donc je connais cette expérience, parce que c'est une expérience magnifique. Et effectivement, je sens que dans l'école, mais qui est en France, en Italie, n'importe où, il a cette chose qui est écrasante, qu'il y a quelqu'un qui détient la connaissance et l'autre qui la reçoit, et donc se forme par certification, par mémorisation, par effet d'acquérir une connaissance. Et il y a, comment dire, pour moi, mis à part la certaine technique différente, cet changement de sujet, ça veut dire que c'est le sujet qui devrait apprendre quelque chose, en effet, il n'apprend pas, il la fabrique lui-même pour une méthode différente. Ça veut dire que la connaissance, quelque part, il est dedans lui et c'est juste un accompagnement pour. Pour moi, disons, la médiation, je pense qu'il peut avoir une valeur seulement dans ce sens-là, que le public, celui qui s'approche à l'œuvre, il puisse être amené par un médiateur, et ça, le rôle de le médiateur, il est très important, à se poser des questions pour que soit lui aussi un artisan de son œuvre. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on avait...
C'est un peu trop utopiste, mais...
Non, pas... Mais on avait dévié, j'avais noté le pourquoi de la médiation, mais du coup je considérais qu'on y avait répondu quasiment par la bande. Si on considère que une partie du travail qu'on a à faire, des différentes places où nous sommes, tout un chacun, c'est de permettre à un sujet, encore une fois, de rencontrer une œuvre. Alors vous allez me dire, pourquoi aller rencontrer une œuvre? Bon, peut-être qu'on peut au moins s'entendre là-dessus, c'est que puisque nous avons tous des métiers et qu'on y passe un peu plus que notre vie professionnelle là-dedans, c'est de considérer qu'il y a quelque chose de fondamentalement irréductible dans l'art, dans la création, qu'elle soit plastique ou qu'elle prenne d'autres formes, et que ça participe de ce qui fait qu'on est humain et qu'on vient défendre ça, et qu'on considère qu'en plus, quasiment comme des prêtres, on a tout le monde, on doit traîner tout un chacun derrière nous, même ceux qui n'ont strictement rien à faire. Mais bon, ça c'était un présupposé de base. Voilà, c'est un peu le...
Terre de mission.
Voilà, c'est ça. On prend nos bâtons de pèlerin. Mais du coup, j'aimerais revenir... vous l'avez évoqué, mais je ne sais plus par quel biais tout de suite, à comment est-ce qu'on fait pour amener ça, et pour autrement que dans une verticalité, c'est-à-dire un initié et j'ai été brouillé parce que je vais vous dire comment, je vais me permettre ça, et après on en viendra à la pratique, mais je vais vous dire comment Lacan décrit le discours universitaire. Donc Denis, n'écoute pas s'il te plaît, mais il explique dans un tas de choses que ce sont des pédants qui s'adressent à des pédés, parce que vous voyez le dispositif. Voilà, moi je trouve ça très amusant, mais c'est très peu politiquement correct, mais c'est justement pour ça qu'on est là, me semble-t-il. On pourrait faire un point là-dessus dans la médiation. Mais pour revenir à la pratique qui n'est pas politiquement correcte, dans le sens où, pendant un certain nombre d'années, 30 ans, comme le rappelait Nathalie tout à l'heure, une grande partie des acteurs ont considéré que la pratique n'était pas un moyen de faire accéder à l'œuvre. D'autres y sont allés. Et Anne, tu disais... oui, la pratique, mais avec certaines limites. Alors, j'avais envie que tu reviennes là-dessus.
Oui, parce que historiquement, non. Dans les années 60, 70, la pratique, l'éducation populaire, la pratique était très importante. Les ateliers de pratique artistique étaient très importantes.
Bien sûr.
C'est que quand on a eu, pendant ces choses sur lesquelles on revient maintenant, mais plutôt une scission entre la décmode. Enfin, toutes ces questions entre démocratisation de l'art, éducation populaire et tout ça, c'est là où les professionnels de l'art contemporain éprouvaient un certain mépris pour les ateliers de pratique artistique, tandis que du côté du socioculturel, voilà. Heureusement, je pense qu'on commence à dépasser un peu tout ça. Mais par contre, oui, ce que je voulais dire au sujet des... moi, j'ai dirigé pendant 8 ans un lieu qui, entre autres, avait des ateliers de pratique artistique. Je peux vous dire que sur la, je sais pas moi, les 150-200 personnes qui étaient, s'il y en avait 10 qui ont véritablement vu des œuvres d'art contemporain, c'était le grand maximum. Donc on peut pratiquer l'art toute sa vie sans rencontrer d'œuvres d'art. Je pense que ça dépend vraiment du dispositif, justement, comme dispositif, comme vous l'évoquiez, ou comme monsieur l'évoquait pour la danse, parce que c'est accompagné du spectacle après ou avant, ou voilà. Je pense pas que c'est pas cette accession au sensible passe pas nécessairement par la pratique. Ça peut être aussi, comme le reste, une des modalités, si c'est dans certains types de dispositifs, si c'est accompagné d'un peu de cognitif, si c'est accompagné dans le cadre peut-être, alors il y a quelqu'un qui peut en parler mieux que moi ici, si c'est dans le cadre peut-être d'une démarche plus participative où il y a justement plus ce rapport, beaucoup moins ce rapport hiérarchique entre public, artiste, institution, et que les gens, puisque je m'obstine à les appeler comme ça, peuvent participer à la genèse d'une œuvre, peuvent cheminer de concert avec un artiste vers la réalisation de quelque chose.
L'appropriation, c'est un terme qui peut...
Dans ce cas-là, c'est une forme d'appropriation.
Parce qu'au bout du compte, c'est pratique ou pas, c'est l'appropriation. C'est
oui,
que...
oui. Ouais.
Fabien, tu...
Oui. Oui, alors je voulais tout d'abord simplement réagir sur une petite chose que vous avez donnée en disant quand on comprend quelqu'un, c'est qu'on a le même procédé mental, enfin, c'est une sorte de synchronisation des processus de pensée. Et dans le cadre de la médiation, moi je pense que c'est aussi, par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que le fait que, comme Piaget disait que apprendre, c'est apprendre à apprendre, c'est essayer d'apprendre comment on apprend. Pour une bonne médiation, celle qui pourrait se disparaître, c'est celle qui a appris à quelqu'un face à une œuvre, non pas à comprendre cette œuvre, mais en même temps que comprendre cette œuvre, comprendre comment il avait cette relation à l'œuvre et puis qu'il puisse le remettre en jeu dans un autre contexte. Après, donc voilà, c'était une parenthèse par rapport à ce qui a été dit précédemment. Sur la façon de participer, enfin de s'approprier certaines œuvres. Moi, je mène un projet depuis 4 ans que je fais à peu près tous les ans avec différents publics. Donc, ça a été dans une école, dans un lycée, avec 3 étudiantes, un lycée agricole. Après, ça a été à l'INSA, avec des étudiants ingénieurs. Après, ça a été dans une association de reconversion de gens qui avaient une maladie mentale à gérer. À Saint-Étienne, les moyens du bord. Et l'idée, c'est de travailler sur l'histoire de la performance, mais en construisant ensemble une conférence. Et moi, je viens avec du matériel, toutes les sources que je peux ramener sur l'histoire de la performance, depuis les années 60 à maintenant. Et ensemble, en fait, c'est en fonction de leur réaction avec le matériel que je propose, ça peut être la vidéo, des livres, des images. Et c'est en fonction de leur réaction qu'on avance ensemble sur la connaissance que moi je... C'est pas une connaissance que je détiens, je viens simplement en tant que justement médiateur. Donc on peut refaire des œuvres ou on peut simplement débattre de ces œuvres. Certaines fois on est beaucoup en opposition, mais c'est en avançant ensemble sur cette... d'une séance à l'autre. Alors c'est pareil, le projet peut s'étaler sur 6 mois comme être très court sur 3 mois ou un peu plus, mais l'idée c'est qu'on va ensemble avoir à transmettre ce savoir qu'on aura apprivoisé, enfin, cette matière historique qu'on aura apprivoisé ensemble. Donc moi là je suis simplement même un animateur, on peut dire, ou un médiateur, mais les débats qui ont lieu peuvent être retranscrits dans une performance conférence qu'on va ensemble concevoir. Donc il y a aussi la forme de la forme finale de ce que j'appelle moi la co-production est à déterminer ensemble. Donc on a fait vraiment tout un cheminement ensemble avec un groupe qui est motivé, hein, ça, je ne dis pas que c'est des gens qui viennent simplement dans un lieu comme ça ou qui viennent visiter une biennale. Là j'ai affaire à un groupe qui est motivé initialement par cette aventure qu'on a menée en commun, et à la fin donc eux peuvent prendre la parole ou faire des actions. Donc ça passe par le corps comme par comme par l'intellect, les différentes façons dont on va communiquer ensuite à un autre public. Donc, il y a un second public, c'est une sorte de millefeuille dans la question de la transmission, lors d'une seule performance conférence où on va relater cette histoire. À chaque fois, et puis j'imagine bien que ça a été différent, les résultats, autant plastiques cercles dynamiques dans les sujets abordés sont différents à chaque rendu. Là, c'est vrai qu'il y a plus de notion de vraiment de médiateur ou de la position. Les positions sont vraiment chamboulées.
Vous n'avez pas, enfin, ça s'adresse à l'ensemble de cette du cerf qui a réagi. Peut-être d'autres. On va laisser à Cécilia de Varine le temps de s'installer, mais je pense qu'elle aura quelque chose à dire puisqu'on est sur la pratique, le moyen de transmettre quelque chose de l'art par une pratique du public. Voilà, mais on va vous laisser le temps de prendre la température de la chose. Donc du coup, oui, vous n'avez pas répondu. Donc si d'autres que je ne connais pas et dont donc je peux pas les appeler à intervenir, mais solliciter la parole, c'est dans quelle mesure ça peut marcher. Toi, tu as évoqué les limites, Anne, mais d'une manière, ce que tu as dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'artiste. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait en dire plus ?
Ce que j'ai dit, c'est que la pratique ne suffit pas. La pratique des outils, des techniques, mais je crois que quelqu'un a déjà évoqué un peu cette question, ne suffit pas à une rencontre avec l'œuvre d'art.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ?
Parce qu'on peut très bien pratiquer toutes les semaines, comme j'en ai vu plein, faire de la peinture, de la sculpture, toutes les semaines pendant 10 ans, et ne jamais voir une œuvre d'art ne voir que sa propre pratique.
Et donc, quelle modalité de...
Pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème. Mais ce n'est pas une rencontre avec l'œuvre d'art contemporain.
Donc, ma question, c'était plus précisément dans quelle mesure la pratique peut permettre la rencontre avec l'œuvre. Ou qu'est-ce qu'il faut, enfin, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a un dispositif? Est-ce que...
C'est un double mouvement sur le travail du regard... de rencontres avec de véritables œuvres et de pratiques. C'est un ensemble.
Je vais intervenir en tant que artiste qui a participé à Enfance à Langage et en tant aussi qu'anciennement médiateur dans un centre d'art où on faisait des ateliers en lien avec les expositions qui étaient présentées.
Oui, avec les expos.
En écho, où les gens cherchaient plutôt à extraire des notions pour réinterpréter ou réappréhender les œuvres qu'on avait vues précédemment avec un public d'ados. Alors que pour le cas des tout petits, enfin des petits, en maternelle, l'idée c'était peut-être de voir des œuvres. Il y avait aussi le rapport à l'univers, c'est-à-dire que ça peut être pas des œuvres, ça peut être autre chose. En tant qu'artiste, on ramène des images qui constituent son univers. Mais c'est aussi les mettre par la pratique dans un état, en fait, un état créatif ou un état de sensibilité, où finalement ça se traduit par des dispositions, des déplacements, des points de vue. Et en fait, en recherchant cet état dans la pratique, on peut se mettre avec justement analyse avec l'œuvre, se mettre en position de l'artiste quand on a regardé l'œuvre pour appréhender par rapport à cet état de créativité.
Oui. Si vous permettez, je souhaiterais, chacun de son point de vue, mais si vous avez remarqué, on a besoin de le dire aujourd'hui davantage peut-être. De mon point de vue, une des clés en tous les cas d'entrée, c'est la mise en confiance dont on parlait tout à l'heure, avec Charlotte Morel. C'est vraiment, au-delà de toute divulgation des savoirs, je crois que ça me paraît le préalable et comment le faire. Et je ne suis pas sûre qu'on sache. Nous ici, absolument, c'est quelque chose qu'on recherche, mais il me semblerait intéressant de pouvoir, dans les faits, sur le terrain, pouvoir encore développer cette notion, bien sûr. Et pourquoi la notion de pratique pourrait m'intéresser aujourd'hui, alors que mes aînés, c'est les années 60 étaient tournés vers la pratique, jusque même le CAPC qui est né dans les années 70, qui a monté un atelier de pratique lié à l'exposition qui était... menée par la femme de Jean-Louis Froment, d'ailleurs, ma mémoire me... Parce que j'ai la chance...
Le modèle du genre.
J'ai la chance, à l'âge que j'ai, d'avoir connu ou entendu parler de ça. Et j'ai vu que les aînés qui suivaient étaient plutôt plutôt hostiles à ces questions de pratique, en disant la pédagogie, elle est du côté des pédagogues, et ça, c'est pas notre fait, etc. Cependant, aujourd'hui, moi, je suis amenée à me réinterroger, parce que au-delà de la pratique et du faire... mais je vais mettre en parallèle deux choses. C'est la pratique ou l'usage des outils numériques et la dimension dans laquelle ça nous amène aujourd'hui, à savoir, je pense que difficile d'échapper à ce contexte de l'ère numérique aujourd'hui, de parler de verticalité, d'horizontalité sur la divulgation des savoirs via le numérique, ça me paraît quand même une donnée qu'on n'avait pas dans les années 60. Ça, c'est sûr. Ni dans les années 80, qui ont été des années encore plus catégoriques sur la manière d'approcher l'art contemporain. Donc, du coup, ça, c'est une donnée forte et que je mettrais en parallèle sur à la fois cette dimension « je participe parce que je suis dans cette horizontalité que l'outil numérique me permet potentiellement de faire ». Ça renverrait, alors participer via le numérique, participer sur le terrain, c'est un peu large ma question, mais c'est aussi ce que tu fais au CAP et comment ça s'opère. Et en même temps, cette notion, voilà, au-delà de participer, de l'appropriation, la pratique en est, d'après ce qu'on vient d'évoquer, une des possibilités. C'est-à-dire qu'on peut, via la pratique, avoir le sentiment de s'approprier. Au bout du compte, ça donne toujours la notion de s'approprier, se familiariser, pouvoir, au-delà de recevoir un savoir, faire de la relation à l'œuvre quelque chose, et on en revient là, de personnel. Bon, alors voilà, subjectivité, pas subjectivité, en tous les cas, c'est des notions qu'on ne voulait pas aborder il y a... moi, j'ai vécu l'ère des années 90, hein, des 95 à nos jours, sur les emplois jeunes et les médiateurs. On avait inscrit un schéma des années 80, et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce schéma-là, bah, il n'entend pas tout ça. Enfin, globalement, même si on fait des choses sur le terrain qui marchent et dans le sur-mesure ou la mise en situation qui sont extrêmement intéressants, mais que quand même le contexte d'aujourd'hui nous amène à peut-être penser des modalités, des approches différentes. Et pour le coup, Nathalie, si je puis me permettre, je suis bavarde, alors du coup je vais demander à Cyril de modérer, mais j'aspirais tout d'un coup. C'est vrai que si on écoute l'opération, le module, enfin le schéma opératoire de médiation danse, l'expérience c'est le spectacle, on va dire ça pour aller vite.
Alors en danse, la différence avec l'exposition, c'est qu'on a les artistes là, puisqu'ils sont sur scène.
Ouais. Alors, au-delà du spectacle. Oui. Bah, nous aussi, ça de les faire venir avant, pendant, après. Moi, l'œuvre, dans notre cas, a priori, n'induit pas le corps de l'artiste et de son créateur. À la différence.
On a déjà convoqué la danse ou le théâtre pour comprendre une œuvre d'art.
Pardon, j'ai pas entendu.
On a déjà convoqué la danse ou le théâtre pour comprendre une peinture.
Oui, non, alors attendez, je voulais rester sur des choses simples, c'est-à-dire un tableau, ça n'induit pas la présence du peintre. C'est simple, hein. Une chorégraphie, ça induit un corps de danseur. Bon, bah, du coup, l'expérience, mais j'essaye de redécanter le truc, c'est-à-dire que l'expérience, elle est là, à ce moment-là. Nous, ce qu'on essaye, c'est de produire, au-delà de la divulgation, ou de du partage de savoir, ou d'expérience, c'est comment, à un moment, cette expérience se vit aussi, malgré tout, si ce n'est pas sensoriel, mais physiquement, avec cette œuvre, qu'il s'agisse d'un brouillard coloré ou d'un Richter, sans la présence de l'auteur. Et c'est ça qu'on cherche un tout petit peu ou pas? Attendez, je voudrais savoir.
Il y a aussi l'œuvre en train de se faire. Le projet participatif, c'est l'œuvre en train de se faire, et c'est aussi une forme, comme ça se fait pour Vimta, ou comme ça se fait
Mais pourquoi un Richter ne pourrait pas permettre ça? C'est ça que je voudrais reposer comme question. Bah,
parce que Richter n'est pas là pour peindre une merveilleuse bougie avec l'aide des habitants de Villeurbanne.
Oui, mais pour autant, s'il n'y a pas l'expérience du faire ensemble, est-ce qu'il y a l'expérience d'un regard qui va au-delà du regard?
Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose à faire. Moi, il me semble quand même que dans le...
Bah oui, mais c'est une évidence, mais...
Dans la question que pose Gaetano, qui dit le pourquoi, s'approprier quoi, quand on va voir une œuvre ou quand on va voir un spectacle, qu'est-ce qu'on veut s'approprier, qu'est-ce qu'on veut faire. Je mets ça en lien avec ce que vous dites, Monsieur Cerclé, avec l'idée que... Enfin, je pense que tout ce que vous décrivez vient des neurosciences et la capacité qui semblerait que nous ayons d'apprendre uniquement en regardant, d'ailleurs, et d'enregistrer la gestuelle et avoir la capacité de la reprendre uniquement par l'expérience du regard.
Sans avoir la certitude de pouvoir la reproduire après.
Oui, mais au moins de la comprendre.
Du regard et des sensations, enfin pas que du regard.
Oui, enfin là, c'était plutôt, enfin, sur les neurosciences, il y a cette idée-là du regard quand même. Qui produit sans doute une sensation, enfin je ne sais pas exactement d'ailleurs cette chose-là, mais il me semble quand même que les œuvres sont là, mais elles sont le fruit d'une pensée, et que c'est peut-être cette pensée-là qu'on est en train d'essayer de s'approprier, en tout cas, et c'est peut-être ce savoir-là aussi qui peut être thésaurisé par l'individu pour aller l'utiliser dans une autre situation, parce qu'apprendre c'est bien ça, c'est dans une situation comprendre un certain nombre de choses qui peuvent être remobilisables dans une autre situation pour une autre manière d'être au monde, en tout cas. Bon, y a quelque chose de cet ordre là qui doit se jouer. Et moi je voulais vous poser une question, monsieur. Lorsque vous travaillez sur la performance, pourquoi vous choisissez de travailler sur la performance?
Pourquoi bah d'abord, on ne peut pas justement avoir de beaucoup de présence dans la performance, puisqu'elle a eu lieu. Et, moi, je travaille avec des restes, et les restes, c'est assez transportable. Donc, c'est vrai que je ne suis pas directeur d'une institution, donc je peux aussi. Y a un côté très pratique, hein, c'est pas la raison pour laquelle, mais je peux venir avec des livres, avec des morceaux de son ou avec des vidéos. Ça, c'est un côté très pratique. Mais la performance, moi, m'intéresse parce que les choses qui se sont passées, soit dans les années 20 du 20e siècle, soit dans les années 60-70 du même siècle, renvoient à des situations de société et à des attitudes de gens vis-à-vis d'une société qui me semblent intéressantes, pas de rejouer, mais de mettre... là en présence des gens de mes contemporains, enfin des gens avec qui je travaille, parce qu'il y a des rappels, il y a des échos, il y a énormément de choses qui peuvent recréer du débat qui lui est actuel. Donc moi j'ai fait de la performance pour réactiver en fait
une pensée.
Pardon ?
Vous réactivez une pensée.
C'est une pensée, c'est une situation, c'est une relation d'un individu à une société ou à l'histoire. Donc la performance a cette, on va dire, plasticité qui est très intéressante, en même temps d'être un savoir, enfin une situation historique, donc c'est un rapport à une œuvre qui n'est plus, mais qui n'a que des restes. Ça m'intéresse aussi, parce que justement ça permet d'utiliser des stratégies comme la réactivation, comme le reenactment, comment est-ce qu'on fait revivre ces restes, est-ce qu'on peut se les approprier. C'est plus facile de se réapproprier une performance qu'on va la rejouer plutôt qu'un Richter. Voilà. Donc en fait, c'est ces stratégies-là qui me permettent, un, d'être mobile, d'aller dans tel ou tel lieu, ex situ ou in situ, et de jouer cette réflexion avec les gens et cette coproduction d'un nouveau savoir, enfin peut-être d'un nouveau savoir ou d'une nouvelle confrontation à un autre public. Donc c'est tous ces enjeux-là que me permet la performance.
Vous utilisez la performance, la partition de la performance, un peu comme un mythe qu'on réactualise, quelque chose qui retrouve du sens.
Voilà, alors c'est vrai que certaines fois les performances n'ont pas de partition. Il y a des performances qui ont des partitions, donc là c'est facile, mais c'est pas forcément toujours celle-ci. Même des performances on n'a pas l'autorisation de l'auteur pour la refaire, je vais prendre les droits Parce que c'est simplement pour faire et discuter. C'est-à-dire, c'est la réflexion de l'artiste à ce moment-là que j'apporte. On fait ensemble et ensuite on rediscute de ce que ça a produit et on voit ce qu'on, où ça nous mène sur une autre performance ou autre chose. En fait, c'est un processus de...
L'œuvre devient l'objet médiateur, c'est-à-dire que c'est plus l'objectif, ce n'est pas la découverte de l'œuvre, mais c'est un moyen pour aller vers un débat, vers une compréhension. Vers...
Voilà, c'est les deux en fait. C'est-à-dire que j'apporte quand même beaucoup d'importance à la compréhension quand même. Mais la compréhension via... il y a une première compréhension par la discussion. C'est ça aussi, dans les, ce qu'on a pu dire sur les façons d'être médiateur ou les façons d'être en face d'un public. Là, on disait tout à l'heure que la description était très importante. C'est vrai, l'apport peut-être historique me semble aussi important. Et ensuite, il y a une expérience qui est tout aussi importante. Et l'ordre dans lequel on met toutes ces choses-là peut varier en fonction de l'œuvre. Il y a des œuvres qui ont besoin, à mon avis, d'avoir un apport historique ou théorique ou de la démarche de l'auteur. D'autres, au contraire, on peut s'en passer et le mettre à la fin. En fait, c'est aussi cette plasticité des médiateurs dont vous parliez, je crois.
Enfin, je l'ai juste dit au tout début, et moi je voudrais bien insister là-dessus, c'est que nous on essaye quand même de partir des œuvres qui génèrent tel ou tel type d'approche, de médiation. Ça peut être faire un thé dansant, comme une conférence, comme. Enfin voilà, il y a plein. Ça, l'œuvre génère sa propre médiation, d'une certaine manière. Je pousse le trait un peu loin, mais je ne sais pas si tu ressens ça comme ça, mais. Et c'est comme ça, c'est en part, grâce aux œuvres et aux artistes qu'on arrive à diversifier ces modes de relation à l'œuvre.
J'aurais envie de le prendre de l'autre côté. Hein. Ouais. C'est aussi les gens qui
et les gens,
induisent aussi.
Après, il y a le. Oui. Mais au départ, dans les premières propositions qu'on peut faire, ça. Parce qu'à force de parler de relation, on devient très, à la fois bon, très concret. Mais très abstrait et un peu angélique, je trouve. Et moi, je voudrais redevenir un peu concrète parfois. Enfin, j'en ressens le besoin dans mon métier de quand même, on parle d'œuvres d'art, quand même. Quand même.
Je voudrais...
Et c'est pas la même chose que de parler de danse, de parler de théâtre, ou de parler de n'importe quel type, je sais pas, de design, ou même pas de cuisine.
Je voudrais réagir à ça parce qu'au tout début, j'ai noté quelque chose que vous aviez dit, il me semble, c'était que s'il y avait une nécessité de répondre à la demande formulée par les gens. Et du coup, c'est presque un peu contradictoire avec ce que vous dites là, et c'est ça qui m'interpelle, c'est que je suis assez d'accord avec ce que disait Madame de Varine en disant la première facette de ça, on ne devrait pas pouvoir anticiper un besoin de médiation, on ne devrait pas pouvoir anticiper la forme que cette médiation pourrait prendre dans la mesure où on ne peut pas anticiper le besoin de personnes d'une médiation ou d'une aide à la compréhension que pourrait être la médiation. Et voilà, enfin, je veux juste réagir à ça parce que je trouve intéressant de cesser la possibilité. Et c'est pour ça que peut-être, Nathalie, ça me faisait réfléchir aussi pourquoi un Richter pourrait pas donner lieu à des choses que font une œuvre de Lydia Papé. Parce que l'enjeu de l'œuvre, certainement, ne se situait pas à cet endroit-là et peut-être que, du coup, ça n'induit pas une nécessité de ce type-là de médiation. Parmi certaines personnes, peut-être que certaines personnes aimeraient pouvoir incarner par un fer, par quelque chose, la bougie de Richter, mais peut-être que ce n'est pas ce qui paraît le plus complet comme approche de cette œuvre-là, alors qu'une œuvre participative, performative ou d'autres modalités d'œuvre aurait ça comme enjeu de la part de l'artiste à la base. Et que la magie opérant, c'est ce qui se distille à l'intérieur des pensées et des besoins de compréhension, s'il y en a, auprès des visiteurs. Voilà, tout ça pour dire, j'avais envie de réagir par rapport au danger et à la tentation que c'est d'anticiper un besoin de médiation. Et souvent, du coup, le risque, enfin, l'écueil de tomber complètement à côté de la plaque et de ne pas répondre à la médiation, pas répondre à la demande ou au besoin du visiteur ou du spectateur, en fonction de l'œuvre dont il s'agit, mais de projeter quelque chose de soi dans la façon d'expliquer ou de présenter.
Et d'accord, et je me permets parce que justement ce projet que vous avez sous la main, enfin sous les pieds, expérience de l'œuvre, avec tout ce que ça suppose de points de questions plus que de réponses, avec Charlotte et Magali, on s'est réellement demandé, puisqu'on a anticipé quand même un dispositif, tout en étant à peu près sûr qu'on n'aurait pas dû le faire. Mais en même temps, si on ne signalait pas l'invitation à l'expérience, c'est-à-dire la mise en confiance, si on ne le matérialisait pas dans l'espace par un petit bout de choses au sol, par ces petits pliants et ces petits blocs-notes, ces cartels qui sont en train de partir et ces notions de restitution, retour, enfin, ce que vous découvrirez dans l'espace. Donc on est pris un petit peu au piège de ne pas vouloir trop induire et en même temps de pouvoir signifier.
Alors, on est un peu obligé de penser à un dispositif de toute manière, mais là on retrouve le terme de partition peut-être. C'est-à-dire c'est un peu effectivement, on va être dans une situation d'improvisation comme un joueur de jazz, enfin, mais il faut bien travailler une forme qui sera totalement plastique, totalement malléable, enfin, et qui va aussi pouvoir se jouer et se construire, se co-construire avec les gens, parce que sinon, effectivement, on risque d'être complètement à côté de la plaque. Enfin, moi, je travaille maintenant dans un hôpital psychiatrique, donc ça me surprend toujours de réentendre, parce que ça fait que 3 ans, et pourtant, j'ai l'impression d'un décalage assez large. C'est vrai qu'on pense pas du tout pareil quand on est du côté de l'institution culturelle, et qu'on est le garant de quelque chose et d'une forme, et d'une certaine idée de l'art, etc. Et puis quand on est du côté d'une institution, quelle qu'elle soit, d'une structure, ou d'un lieu, ou d'une rue, ou d'un hall de gare, ou d'une école ou autre, et que là, tout d'un coup, on se retrouve avec des gens. C'est les gens qui nous sont donnés d'abord. Et après, il y a... dans quelle mesure... ça pose énormément de questions. C'est-à-dire, quel est le sens de mettre une œuvre là? Quel est le sens de partager autour d'une œuvre? En quoi cette œuvre va pouvoir contribuer à du sens pour eux? Et là, il y a tout un coup qui s'inverse. Enfin, j'entendais le mot confiance, je ne sais pas ce que vous avez dit là-dessus, mais effectivement, ça me semble une des données essentielles. C'est-à-dire, comment on construit la confiance? Et c'est très long, et c'est très lent, et ça demande énormément de temps. C'est-à-dire, pour que la personne ne se sente pas... trahi, j'avais un peu l'image à l'époque où je travaillais au musée des Beaux-Arts où la première chose qu'on demande dans un musée des Beaux-Arts c'est de déposer vos affaires, là, votre parapluie et votre sac, et je me disais c'est un peu dommage parce que symboliquement c'est assez fort, on demande aux gens d'abord de déposer leur sac culturel quoi, et comme s'il fallait qu'après ils soient tout nus, alors que le seul moyen que je vais pouvoir avoir pour m'approprier les choses c'est justement de me réapproprier mes propres outils de regard avant d'oser changer ma représentation du monde, parce que c'est ça aussi l'expérience de l'art. C'est quand même, je pars d'un point A quand j'arrive, je vois quelque chose, et quelquefois c'est même la notion même de beau, c'est-à-dire quelque chose de fondamental pour l'être humain depuis l'enfant, qui va être complètement bouleversé. Et alors quand on travaille dans un musée de Beaux-Arts, c'est encore plus marquant, parce que le musée s'appelle Beaux-Arts. Donc quand j'y rentre, je crois je vais forcément voir quelque chose qui va contenter ma satisfaction du beau. Patatras, rien du tout. Non seulement il y a la moitié des œuvres que je trouve assez laides, mais en plus il y a des gens qui ont massacré plus ou moins cette notion du beau. Donc ce changement de représentation, il me faut une énorme confiance, il faut que je sois soutenue constamment dans cet effort pour pouvoir oser passer la rivière, quoi, passer quelque chose qui va aller au-delà de ce que moi-même je peux imaginer. Et par rapport aux nouvelles technologies, il me semble que c'est un peu la mode, on le sait bien, mais c'est effectivement une vraie réalité. Aujourd'hui, j'ai animé, là, avant d'arriver, une rencontre autour du texte d'Arthur Rimbaud dans la cafétéria des patients à l'hôpital. Enfin, auteur choisi par un des patients il y a un mois, et ils avaient tous préparé en allant sur internet, donc ils savaient 10 fois plus de choses que moi sur Rimbaud, rassurez-vous, et c'était super parce qu'en fait ils étaient je crois qu'on ne voit que ce qu'on connaît déjà, et qu'ils étaient absolument préparés à accueillir quelque chose de totalement étonnant, parce que c'est vraiment très très bizarre les textes de Rimbaud, enfin je les ai redécouverts à cette occasion, notamment les textes d'Illumination. Et donc il y avait quelque chose qui se faisait assez naturellement, comme quand on travaille avec des enfants qui ont déjà vu la carte postale de l'œuvre qu'on leur montre. Ça n'a rien à voir, ça va 10 fois plus vite. Il y a quelque chose de l'appropriation qui s'est, parce qu'une carte postale c'est petit, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, parce que c'est un support, etc. Donc il y a quelque chose de la préparation qui peut se faire avec de la pratique, parce que la main, on sait, peut permettre à plein de gens de rentrer en contact avec les choses. Et je pense que c'est un peu notre devoir de rappeler le rôle de la main, peut-être aussi, enfin notre devoir de médiateur aussi de l'art, mais le rôle de la main, de l'ouïe, de la présence physique, de la sensation tactile, etc. Mais c'est aussi se nourrir, les nouvelles technologies me semblent être un peu des impasses dans le lieu même, de la présentation de l'œuvre, parce que je crois que c'est un peu dramatique de surajouter des écrans à la relation directe avec les choses. Enfin voilà, il y en a de partout, donc c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être pas les lieux les plus appropriés. Mais par contre, c'est génial pour tout ce qui est de l'ordre de la préparation ou de la post-production.
Ouais. Enfin, ça, tout à l'heure, avant que tu ne vous arriviez, parce que nous, on a le nouveau musée en... J'avais remis un cadre, enfin envoyé un cadre hyper large, c'est-à-dire l'éducation aujourd'hui, la classe inversée, Poussette par Michel Serres, enfin, etc., etc. C'était aussi cette idée-là de. Je me tourne vers Lionel ou Jacqueline sur l'éducation au sens large, la classe inversée. On sait que c'est pas tout, mais c'est déjà un pas vers. Vers cette notion de si c'est pas d'appropriation, c'est comment les enfants, là en revenant vers un jeune public quand même, pour le coup, et sur la notion du futur, ce serait peut-être pas mal aujourd'hui et demain, et tous les enjeux qu'on peut mettre aujourd'hui dans qu'est-ce que ça pourrait être l'éducation à venir, parce que ça passe pas par que, enfin, on parle de l'art, mais tout d'un coup, j'ai l'impression que le cadre est beaucoup plus préoccupant au sens d'une éducation tout court. Enfin, là, c'est peut-être une question personnelle, mais on peut plus enseigner. Enfin, d'après moi, je suis pas enseignante, mais
c'est Corinne qui doit répondre.
On peut plus enseigner comme avant. Enfin voilà. Donc comment on fait du coup aujourd'hui? Donc est-ce que la question de l'enseignant, elle n'est pas déjà posée quand Cécilia nous renvoie à cette question d'internet? C'était dans ce contexte.
Non, si, pour que tout le monde ait fâché. Dans nos séances de travail, le texte de Michel Serres, qui n'est pas non plus un philosophe extrêmement pointu, mais quand même, il a produit un texte l'année dernière, ou il y a deux ans, Petite Poussette, qui est très court et qui est très bien, qui a au moins l'avantage d'indiquer que, c'est ce que Cécilia Varine disait, c'est ça sert à quoi d'être un prof qui viendrait dispenser un savoir, c'est-à-dire distiller des connaissances qu'on écoute, puisque toutes les têtes que vous avez devant vous quand vous êtes un enseignant qui, de surcroît, sont derrière un écran, savent mieux que vous ce que vous allez raconter, puisqu'elles l'ont avant vous sur Internet, ou en même temps.
Ils savent peut-être pas mieux que vous, mais
autant.
Mais en tout cas,
ils ont accès à cette information.
La distribution de la connaissance ne peut pas passer par cette voie-là. Moi, je fais une différence très importante en ce qui en serait d'une transmission de la connaissance. Enfin, d'une dispensation de la connaissance celle d'un savoir, et que du coup, oui, Michel Serres le dit assez bien, c'est qu'on est passé dans un moment où ce qu'on peut transmettre, c'est pour ça qu'on avait aussi choisi ce terme de transmission, c'est un savoir, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas étayé de connaissances, qui s'étaye éventuellement de connaissances, mais qu'il vaut mieux abandonner, qu'il vaut mieux s'en défaire, ça a été un peu dit. Et donc du coup, ça peut permettre de repartir vers quelque chose que Denis a dit dès le début de son intervention et qu'on a totalement occulté, qui était la notion du care. On a parlé un peu, Denis en a parlé, mais c'est sorti totalement de nos débats, ce qui à mon avis doit être assez signifiant, mais on va essayer de rattraper le coup. Et c'est vrai que si, comme au Musée des Beaux-Arts de Lyon, on demande aux gens d'entrer quasiment nus, enfin en tout cas sans bagage devant les œuvres, je trouvais que c'est non, mais l'image est bonne, puisque le médiateur, qu'est-ce qu'il a à faire, sinon à accompagner, prendre soin, pour que l'expérience, la rencontre, elle puisse avoir lieu. Et du coup, avec votre activité... Nouvelle depuis 3 ans à Saint-Jean-de-Dieu, c'est bien ça, hein, c'est à Saint-Jean-de-Dieu. Ouais. Il me semble qu'on peut l'entendre aussi, puisque c'est l'autre versant de la problématique qui est-ce qu'on est bien là, enfin, je dis ce le jeu est très peu subjectif, mais est-ce qu'on est bien là pour répondre à une demande?
Il n'y a pas forcément de demande.
C'est bien pour ça. C'est est-ce que venir répondre
à
la demande.
Pas forcément dans l'offre et la demande. Hein.
C'est ça. Est-ce que venir répondre à la demande du groupe, est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire pour qu'une rencontre puisse avoir lieu? Parce que comme vous le savez, faites appel à votre vie personnelle, c'est qu'en général, être décalé, être dérouté, on n'aime pas trop ça, donc on le demande rarement. Donc comment est-ce que ça peut se produire? Enfin, si vous, Cécilia Varine, vous avez envie de réagir à ça, et peut-être qu'après, Denis m'a soufflé qu'il y a quelqu'un de Culture pour tous. Vous êtes Claire Martinez, c'est ça? Je suis désolé, dans les présentations, je n'avais pas repéré. Mais sur le CAIR, vous pourrez peut-être aussi dire des choses. Enfin, sur l'accompagnement, le prendre soin. Je vous laisse, Cécilia.
Alors, moi, c'est l'objet de l'institution qui m'emploie aujourd'hui. C'est le prendre soin et même le soigner, quoi. Moi, j'utilise rarement cette image-là, même si je pense qu'elle est très belle et très juste. Par contre, j'aime bien utiliser un autre concept qui vient de notre ami Donald Winnicott, qui est le holding, hein, c'est-à-dire la façon dont on porte l'enfant. Winnicott était un psychanalyste pour enfants et il a beaucoup développé, a travaillé autour de la question de la façon dont la mère porte l'enfant et soutient son développement simplement par cette espèce de rapport à la colonne vertébrale aussi, le portage qui soutient le dos. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans la médiation culturelle, qui est qu'on soutient l'autre dans son effort de découverte. Et ça, mais tout est bon là-dedans. C'est-à-dire que je me suis battue pendant 20 ans, et je me battrai encore pour qu'il y ait plus de bancs et de chaises dans les musées, parce que je pense que le fait de pouvoir un peu se poser, de pouvoir un peu habiter le lieu aussi où sont les œuvres, de pouvoir que le corps soit confortable, qu'on indique un peu mieux les toilettes aussi, par exemple. Enfin, des choses extrêmement basiques, je suis désolée de revenir au corps, mais quand on parle des enfants, c'est aussi des corps, et c'est d'abord des corps aussi en mouvement dans l'espace, et que il y a quelque chose qui, effectivement, peut-être du prendre soin, mais qui est aussi du holding, et de plus on soutient cet effort de grandir, en fait, de grandir en, parce qu'effectivement, en construction de la pensée, en construction de la différence, en découverte de soi aussi dans la confrontation avec l'autre, et plus on peut peut-être être amené à être généreux avec ce qui nous est offert. Après, ce que je pense qu'on n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément en demande. Je pense qu'il y a quand même, je me méfie en plus toujours de cette histoire d'offre. Maintenant, tout le monde parle d'offre culturelle, d'offre de médiation, d'offre machin, et c'est le vocabulaire du marketing d'abord. Et on n'est pas que dans des produits on n'est pas que dans de la réponse à de la demande. On a aussi quelque chose à proposer et à proposer. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop si les gens sont en attente de cette chose-là. On ne sait pas trop ce qui peut. Mais on va le voir. On va tester des choses. On va tâtonner. On va travailler avec les gens. Et puis c'est eux-mêmes qui vont nous donner les indications pour qu'on les accompagne. C'est un peu la métaphore de l'aveugle qui. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné un aveugle dans une exposition, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas très bien le tenir, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est lui qui vous accompagne. Et un jour, au Musée des Beaux-Arts, on était dans les salles de l'Égypte ancienne avec des aveugles et il s'est trouvé qu'il y a eu une panne d'électricité. Ben là, vous êtes super content d'être avec des aveugles, hein, parce que c'est eux qui vous prennent joyeusement par le bras et qui vous disent « Vous inquiétez pas, je sais très bien où il a sorti. » Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a une inversion et je pense que c'est cette inversion des rôles qu'il faut sans cesse rejouer. C'est-à-dire qu'il faut s'autoriser à ne pas connaître les œuvres dont on parle. Il faut s'autoriser parce qu'on ne connaît pas les gens qu'on accompagne non plus. Et ils vont vous accompagner et c'est ce rapport-là, cette espèce d'échange qui fait qu'à un moment donné, je suis contente aussi de pouvoir apporter quelque chose qui est de la référence que j'ai acquise et qui va nourrir cette relation naissante, quoi. Mais il y a un accompagnement mutuel, quoi. Voilà. Peut-être alors à vous.
Oui, et puis du coup, il faut aussi se laisser surprendre, en tout cas avoir l'ouverture. De considérer toutes les personnes comme des ressources, et y compris justement des personnes. Alors, Culture pour tous est une association qui facilite la participation de la vie culturelle des personnes qui rencontrent des difficultés économiques ou sociales, donc des personnes qui vont être un peu stigmatisées, qui peuvent l'être en tout cas socialement. Et nous, notre positionnement, c'est de dire mais ces personnes, ce sont des ressources, comme n'importe qui. Et à partir de là, il faut savoir les entendre, ouvrir des espaces de dialogue au travers des médiations, au travers des groupes de travail. Enfin, il y a différents outils qui peuvent être mis en place. Et vraiment se nourrir de ces ressources en tant qu'artiste, en tant qu'institution culturelle ou autre. Du coup, on est en train de travailler au développement d'outils de ce type-là, notamment avec la création d'une plateforme web qui va s'appeler La Criée, qui sera mise en ligne dans quelques semaines, sur laquelle on va proposer les personnes d'investir cet espace pour commenter, critiquer, interpeller les acteurs de la vie culturelle. Alors ça peut être sur des choses très très pratiques, mais voilà, en termes notamment d'accessibilité, sur la signalétique, sur une grille tarifaire d'une structure culturelle, sur sa communication, ça peut être vraiment très large, un artiste, sur le fait comment on a entendu, accueilli l'œuvre, comment on ne l'a pas entendu, pour quelle raison on n'a pas fait telle sortie, pour quelle raison on est sorti fâché de telle représentation. Et c'est vraiment un espace où, voilà, on espère en tout cas que ces ressources seront déjà produites, mises en valeur par les personnes, et puis aussi accueillies par finalement les personnes auxquelles elles sont destinées. Et ce travail, en fait, il s'inscrit un petit peu, c'est un peu la transposition de quelque chose qui est beaucoup, pas mal pratiqué dans le secteur industriel, c'est les Living Labs, où on invite un petit peu toutes les parties prenantes d'un large processus de création qui va jusqu'à la vente et l'utilisation d'un produit, à se réunir pour réfléchir ensemble au développement d'un outil qui puisse convenir à tout le monde, aussi bien à un ingénieur, à une personne qui va travailler en marketing, à la personne qui va utiliser ce produit, quel qu'il soit, à réfléchir ensemble à comment développer quelque chose qui puisse correspondre aux contraintes et aux attentes de chacun des acteurs. Là, l'objectif, c'est un petit peu de faire une sorte de culture Living Lab, c'est-à-dire comment, en réunissant tout le monde, alors de manière pas forcément physique, peut-être au travers de cette grille et puis de temps de rencontre, comment permettre une meilleure accessibilité, une meilleure participation à la vie culturelle. Et à côté de cette plateforme, on développe des ateliers aussi, qui sont les ateliers Soyons Critiques, où justement, on va travailler sur ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte, qui était très fin, sur la prise de confiance. Et finalement, quand j'entends transmission et médiation, je vois deux choses de ce qui a été dit. D'un côté, il y a une transmission d'informations, de contexte, un contexte historique, de la vie de l'artiste, peu importe, d'un contexte de création. Et puis, il y a toute une partie qui relève de la maïeutique, finalement, c'est-à-dire, il y a une personne, elle a des connaissances, elle a des compétences, et comment le médiateur, le transmetteur, va réussir par un jeu qui est hyper habile et qu'on ne pourra jamais refaire deux fois à l'identique, et c'est toute là qu'est l'habileté vraiment du médiateur, à la fois être dans la transmission de connaissances et puis aussi dans la transmission de quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus évanescent, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'autre se rende compte des compétences qu'il a et de ses ressources.
Soit créatif dans son regard.
Ah mais complètement. Bien. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que on fait pas confiance aux enfants dans leur manière de le langage des enfants pour exprimer la réception de l'œuvre, et que finalement on les fait passer au travers, on leur demande de réagir par du dessin ou d'autres choses. Quand on devient adulte, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vous demander de réagir à une œuvre par l'oral, par l'écrit, enfin voilà, vous tout mettre en mots, et finalement on vous demande assez peu de le faire par un dessin, je sais pas, une BD,
En art plastique, on le demande constamment.
Oui. Mais c'est vrai que, parce que nous, on s'est posé la question lorsqu'on a réfléchi à cette plateforme. Au début, on voit ce qui se fait par ailleurs. Et vous avez beaucoup de blogs ou de forums sur lesquels vous allez échanger sur des bouquins, des expositions, peu importe, de la musique. Et ça passe par du rédactionnel. Souvent, hein, après, forcément, il y a plein de choses qui sont. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage parce qu'on se prive de beaucoup de retours qui pourraient être hautement créatifs et puis voilà, qui pourraient emprunter d'autres choses. Donc, c'est vrai que cette plateforme, on imagine un petit peu aussi vraiment comme un espace multimédia où il pourrait y avoir des photos, des vidéos.
Pour reprendre peut-être ce que évoquait Nathalie Erginot juste avant, c'est que du coup là tout ce qui, enfin une grande partie de ce qui s'est dit, moi je pensais que ça allait être violent, que tout le monde allait se battre, etc. C'est décevant, tout le monde est quasiment à peu près d'accord. C'est très décevant. Non, parce que tout le monde est loin d'être d'accord, mais chacun reste poli. Ce qui s'est quand même beaucoup dit chez tout un chacun, c'est que ce dont il est question, c'est de quelque chose de singulier, c'est-à-dire qui relève quasiment du un par un, pas forcément du un individu par un individu, mais qui n'est pas traitable en masse et de manière, pour reprendre un mot qu'Anne Giffon utilise dans son texte, mais de manière autoritaire. Enfin, on n'est pas dans ces modalités-là. Et ce qui est c'est très intéressant, puisque c'est précisément en rapport avec le texte de Michel Serres, avec Petite Poussette, qui vient signifier que la position de maîtrise de l'enseignant, du prof autoritaire qui dit « je suis là et vous allez voir ce que vous allez voir mes petits », et dans quelques années peut-être vous aurez le droit d'avoir ma place, cette position-là, elle n'est tenable nulle part. Pas à l'école, certainement pas dans le social, toute la vie politique, ne serait-ce que la manière, qu'importe que vous en pensiez réellement, mais la manière dont on traite aujourd'hui la fonction présidentielle, c'est un signe que dans le champ social, en tout cas le nôtre, ces fonctions-là, elles ne sont plus opératoires du tout. Du tout. Et donc, j'ai quand même l'impression que, en tout cas, ce que chacun a proposé là, de sa manière d'entrer dans la médiation ou la transmission, enfin d'essayer de proposer à un individu un sujet, de venir rencontrer une œuvre pour ensuite être libre dans toute sa... toute la... mettez autant de guillemets que vous voulez à ça, mais que va pouvoir ensuite cheminer tout seul vers d'autres œuvres et continuer sa vie de... sa vie d'homme parlant, que ça, c'est ce que la médiation tente de proposer aujourd'hui, en tout cas c'est les questions qu'on se pose, comme quasiment en train de devancer ce qu'il devrait en être ou ce qu'il en est à l'éducation nationale. C'était un peu ça que tu étais en train de dire, Nathalie. Je force le trait.
Oui, alors, moi, j'aimerais bien ne pas dire national, mais éducation.
À l'éducation, j'entendais éducation nationale dans le sens où éducation... ouais. Comment est-ce qu'on forme nos enfants.
Ouais. Bah, c'est surtout que c'est difficile... Enfin, bon, c'est peut-être un sentiment un peu personnel, mais il me semble que... disons que c'est peut-être moi qui fais cette corrélation entre éducation et la question de la relation aux œuvres ou de la médiation aux œuvres dans notre domaine, mais puisqu'on a des jeunes publics, c'est difficile de ne pas y penser. Et je me dis que de fait, moi-même, en tant que parent, je suis amenée à m'interroger sur les questions de l'éducation aujourd'hui, dont j'ai le sentiment que c'est la seule chose qui n'est pas évoluée au XXe siècle.
Mais qui bon, n'est pas quoi
évoluée.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'était formidable, mais ça fait un petit bout de temps. Et je ne parle pas que de la France, je parle de ce que je connais, je parle de ce que je crois connaître, l'Europe ou l'Allemagne, par exemple. Et du coup, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est très violent de s'interroger sur comment l'éducation fonctionne aujourd'hui par rapport à des enfants dont les parents comme moi sont quand même des apprentis sorciers du numérique. C'est-à-dire que nos enfants sont nés avec le numérique et pas nous. Hein, donc déjà, c'est un peu compliqué. Et face à un enseignement, une éducation qui n'a pas nécessairement pris ces questions-là en compte. Donc forcément, il y a une expérience qui est en train de se vivre et qui, du coup, accroît la notion d'écart qui déjà a existé entre une éducation dont les modalités sont inscrites au début du XXe siècle, qui a peu évolué au cours de ce siècle, mais qui, en plus, avec l'ère numérique, deviennent cruciales. Voilà, donc ce qu'on ressent dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, au regard de l'avenir et comment on va essayer de faire cette éducation de demain, dont Michel Serres dit lui-même, parce que s'il le savait, il serait le plus grand penseur de notre temps, mais n'empêche que j'ai du mal à ne pas relier ceci et cela, c'est tout. C'est une question qui me paraît traverser notre époque de façon cruciale.
Mais est-ce que ça ne rejoint pas la question de l'individu? Parce que vous parlez d'individu, c'est vrai que peut-être ça donne le sentiment dans ce qui s'est échangé là depuis que je suis là en tout cas, mais moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la médiation, c'est qu'on est en groupe justement, enfin on est aussi dans la question du vivre ensemble, et que cette question là elle est cruciale dans la question de l'éducation, point, ni nationale ni artistique, mais dans l'éducation, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, hein, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble, est-ce que je vais la taper tout de suite ou est-ce que je vais attendre 5 minutes, enfin cette construction aussi de ce temps commun, et que je pense c'est quelque chose, enfin cette image du visiteur qui va avoir une relation singulière, qui va repartir, qui va continuer, c'est, excusez-moi, mais une vision très bourgeoise du cheminement de l'individu culturel, comme ça, d'un développement, enfin
on peut prendre les choses à l'envers. Nous on peut avoir, par exemple, comme on n'a pas beaucoup de public, on a un public très précarisé, et ben justement, on a des relations très individuelles.
Oui, mais ça ne veut pas dire que...
Alors qu'on est justement dans une zone très en difficulté.
Mais c'est parce qu'ils viennent seuls, ou c'est parce que vous les convoquez seuls, ou c'est parce que...
Non, ils viennent aussi en groupe, mais même dans les groupes, quand tu as 10 personnes, c'est très individualisé.
Je ne suis pas OK sur la question du groupe, pour le coup. Ce qu'on dit avec Denis Serpès, ce qu'on a en partage, c'est de parler du groupe, certes, mais de la relation, l'alter-relation, mais de l'individu aux autres. Enfin, d'ailleurs, on se chipote les termes parce qu'il dit individu, moi, j'aime pas. Et je dis personne, il dit non, c'est le masque, donc on s'en sort pas. Mais nous, on parle de la personne, enfin de voilà. Machin. Chacun. Voilà. Parce que c'est pas que ça ne pourrait pas m'intéresser, mais je pense que c'est important, enfin que c'est pas dissociable. Quoi.
C'est la
question de chacun.
Ouais. Mais il y a quelque chose d'important que vous soulevez, qu'on a aussi un peu évacué. C'est le à quoi ça sert, c'est-à-dire que s'il y a en effet une rencontre singulière entre un sujet et une œuvre, c'est que ensuite ça sert au lien social, au vivre ensemble, bien entendu. Mais c'est le propos, c'était pas de ne pas faire que le groupe fasse un.
Mm-hmm. Voilà. Tout à fait.
Oui, c'est ce que je veux dire.
C'est ça.
Ah mais c'est sûr.
Et on n'en est pas, et justement, nous, on n'en est pas à ce consensus-là du tout.
Ah oui, non, j'ai pas dit
on
consensus.
Est bien.
Et c'est intéressant que vous l'ayez entendu comme consensus s'il y a groupe. Enfin, pour moi, groupe, c'est pas forcément du tout consensus. Groupe, c'est simplement qu'on va ne serait-ce que s'écouter ou s'entendre, peut-être quelquefois, mais pas toujours. C'est aussi tout d'un coup regarder ensemble. Enfin, je veux dire, c'est cette espèce de partage du sensible qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas justement chacun singulièrement derrière son écran et à revendiquer un jeu qui se met en opposition à un nous, mais on est dans la construction d'un nous à travers aussi toutes les expériences qu'on peut faire ensemble, etc. Parce que ce qui fonde aussi l'enseignement, et ça malgré tout aujourd'hui, ça n'a pas changé du tout, c'est que l'enseignant, il est face à un ensemble d'individus ou de personnes ou de choses. Mais en tout cas, il y a du monde en face de lui. C'est pas le type là au 18e siècle qui était avec son élève tout seul, quoi. Ça n'est pas du tout cet accompagnement comme chez Erasme, dans l'éducation d'Erasme, où on va accompagner le petit prince à développer tout. Non, on est toujours confronté à cette espèce de
dynamique.
Voilà, exactement.
Et la dynamique, elle ne peut exister que si tous les individus sont suffisamment différents les uns des autres, mais suffisamment proches. C'est-à-dire, moi j'aime bien individu parce que c'est à la fois la plus petite unité, mais ça dit aussi l'indivision. Mm-hmm. C'est-à-dire le partage automatique, obligatoire avec les autres.
Maintenant, moi je me suis souvent posé la question en faisant de la médiation, j'ai cette tendance naturelle d'aller vers la recherche d'une co-construction, d'une réflexion face à une œuvre, pas forcément la performance dont je parlais tout à l'heure, même de médiation classique, enfin dans un lieu classique. Et je me suis toujours posé la question de savoir si des fois il ne fallait pas rompre avec ce modèle-là, revenir sur des modèles anciens, mais par exemple, qu'un groupe voit un individu avoir sa propre relation, le médiateur qui va énoncer sa relation très subjective à l'œuvre, sans chercher le moindre partage cette fois-ci. Mm-hmm. Si ça ne pouvait pas être aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que là, on fonctionne plus sur le mode de l'identification ou de l'exemplification, qu'en tant que, cette fois-ci, groupe, je vois quelqu'un qui va partager, enfin, qui va m'énoncer exactement et très individuellement sa relation à l'œuvre, va peut-être me permettre de me dire oui, moi j'ai le droit aussi d'individualiser, si c'est presque caricatural en fait, s'il y a vraiment de l'individualisation dans les mots prononcés. C'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté,
mais c'est intéressant,
qui m'a toujours j'ai toujours été attiré vers ça sans le pratiquer.
Dénoncer de la subjectivité en acte, n'est-ce pas? Vous avez
été... Ça dépend du statut de la personne, en fait.
À l'encontre de tout le consensus qu'on a là, justement.
Tu es en train de proposer ton travail de l'année à venir, c'est ça?
Oui.
Non, mais bon. C'est forcément, ça marche. Enfin, il faut tenter le coup. Non, mais je regarde Fabien.
Voilà, tout à l'heure, c'est ce que font les médiateurs quand ils enlèvent
leur badge.
Ils enlèvent leur badge. Moins je.
Ouais.
Et du coup, je voulais juste revenir sur quelque chose tout à l'heure quand vous disiez est-ce qu'on visite ou est-ce qu'on réussit notre.
médiation, si au dénouement, la personne se dit bon, bah, je reviendrai seule ou j'ai plus besoin de. Pas dans ces termes, à peu près ça.
C'est ça.
Nous, plus fréquemment qu'on pense, j'ai l'impression, en tout cas quand j'étais médiatrice, j'avais l'impression que je réussissais quand la personne disait eh ben, je vais revenir ou je suis revenue, mais j'ai pris un autre médiateur parce qu'on n'avait pas les mêmes échanges et que l'œuvre s'est révélée différemment à nous. Et là, justement, ça m'a été, je dis, vraiment, il y a eu un beau rapport de groupe, on était bien en groupe. Et c'est bien de motiver ça aussi plutôt qu'être seul à faire une visite dans un musée. À l'inverse, moi, je me disais tiens, j'ai réussi ma visite aussi. Quand il disait, ben, je me sens mieux, je reviendrai peut-être seule, c'est très bien, mais quand il disait, je reprendrai une visite pour discuter avec d'autres personnes que je ne connais pas forcément sur des œuvres devant lesquelles je ne suis pas allée, je me disais, waouh, là on a passé un bon moment.
J'ai déjà eu ce type de retour-là et trouvé ça aussi, et ça m'avait posé question. Je pense que je me pose trop de questions avec Thierry, mais ça m'a posé question de me dire, est-ce que je suis en train de créer le besoin d'un accompagnement. Il y a du compagnon.
Je me pose pas de questions. Enfin,
moi, je me pose trop de questions. Le compagnon, que ce soit moi ou un autre médiateur, est-ce que c'est en train de créer quelque chose de tellement sympa et tellement riche, le rapport des deux personnes, des huit personnes, des trois personnes, que je crée un automatisme de dire je vais vivre l'expérience différemment.
Mais on n'est pas défini, on ne sera pas défini demain par rapport à ce qu'on a vécu là.
Mais pour les 9 dixièmes des visiteurs et des publics, le passage par l'institution, c'est d'abord un acte de socialisation.
Oui.
Hein, de la grande bourgeoise du centre de Lyon jusqu'à moi ou d'autres gens. On vient aussi ici pour rencontrer d'autres gens, pour être aussi dans un contexte social. Donc, c'est pas des rapports de dépendance, je sais pas quoi, où l'absolu serait d'être l'homme tout seul devant Stendhal en train de se pâmer. Non, non, c'est peut-être pas ça seulement l'absolu du regardeur. Hein,
ça fait suite à un début de conversation qu'on avait tout à l'heure où on questionnait, enfin en tout cas on a essayé de questionner la nécessité d'une médiation systématique ou la nécessité d'une médiation sous quelle forme, etc. Du coup, je posais déjà tout à l'heure en préambule une question qui allait dans ce sens-là de la nécessité. Et là, je me disais, est-ce que peut-être en remettant en perspective les choses, est-ce que c'est pas une forme de médiation intéressante qui crée elle-même une dépendance à la médiation? Mais s'il n'y a pas lieu de parler de dépendance.
Faisons confiance aux gens, ils sont choix.
Mais il y a quand même dans les deux, dans ce que Fabien racontait et dans ce que vous racontiez tout à l'heure, Corinne, à propos des médiateurs de la Biennale, il y a quand même un premier temps qui n'est pas forcément chronologique, mais qui est au moins logique et qu'il ne faudrait pas oublier. C'est ce que Charlotte a nommé ce temps de la confiance. C'est qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui fait qu'à un moment donné, le médiateur, il peut dire, ok, là on en est là, et on va être sur ce terrain d'échange. Je vais reprendre partager le mot partage qui ne convient pas du tout, mais je vais vous dire comment moi je la reçois. Mais c'est pas entrer là-dedans comme technique, présupposer ça immédiatement comme technique de transmission ou de médiation, ça me semble extrêmement casse-gueule. Parce qu'il faut quand même que...
Il faut être vigilant, c'est vrai que moi je l'explique un peu dans ma thèse à un moment donné, mais c'est la notion aussi de tissage ou d'atmosphère. Il y a des chercheurs en éducation qui s'en occupent, Bucheton par exemple, Dominique Bucheton, et il pose ce principe qu'il faut savoir relier l'intérieur et l'extérieur aussi, l'institution et l'extérieur, et puis créer une atmosphère propice, un dispositif, mais effectivement en étant nuancé, parce qu'effectivement il ne s'agit pas non plus de devenir le modèle identificatoire pour le groupe. Il faut être très prudent, c'est vrai là-dessus.
C'est, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça, Fabien, attends, j'expliquerai après, que je te renvoyais du côté de l'œuvre, c'est-à-dire que ça peut, c'est aussi, enfin comme tu le racontais, ça devient quasiment de l'ordre de la performance, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'un et l'autre, c'est-à-dire celui qui va en premier dire son rapport à l'œuvre et ceux qui sont là, que l'un et l'autre se présupposent, l'un suppose un savoir à l'autre et vice-versa, qu'il y a déjà un rapport de confiance. Je reprends le mot de Charlotte, c'est plus lâche que de la confiance, mais c'est-à-dire qu'il faut que le dispositif il soit clair. Et je ne pense pas que si tu prends un groupe pour te répondre à Nathalie et que tu leur dis bon ben voilà, la visite que je vais vous faire, c'est que je vais vous dire comment moi je ressens cette œuvre-là, ça risque d'être compliqué parce qu'on va tomber dans un truc d'identification où ça c'est ce qu'il faut penser.
Ah oui, non.
Je sais pas, je pense que c'est celui qui parle.
Oui, ce serait une identification, vrai, vois, ce serait, je vais vous dire ce que je pense, ce serait une mise en condition. Mmh. Mais après, il n'y a, plus d'échange. Enfin, moi, dans le modèle qui me fait fantasmer, je vais dire que j'ai jamais. Peut-être que c'est Glasgow, je ne sais pas, mais je pense que ça peut aller plus loin qu'une simple relation de pouvoir et qu'une simple relation de je vous dispense un savoir, une connaissance. C'est simplement, moi je dis ça parce que ma relation à la performance a changé. J'en produisais un certain type et je me suis mis à produire un autre type de performance. Et c'est Jean-Marc Chapouly, c'est une performance que j'ai vue de Jean-Marc Chapouly. Et là, je n'ai pas du tout été invité ni à participer, on ne m'a pas demandé mon avis, mais. Cette confrontation à l'œuvre, on va dire, m'a vraiment fait modifier. Enfin, j'ai compris les choses et je me suis ensuite lancé dans un autre.
Oui, mais il avait quel statut ? C'était qui, Jean-Marc Chapuy ?
Un artiste qui faisait une performance.
Il était donc en tant qu'individu singulier déjà, ouais. et subjectif.
Mais là, le médiateur devient presque un performeur, c'est ce que tu dis.
Oui, mais si c'est Charlotte avec l'étiquette Institut d'art contemporain, ça n'a absolument pas la même signification si elle se met à dire « Alors voilà comment moi, Charlotte, je vois ça. »
Ce qui serait complètement absurde en tant que médiatrice. Enfin,
c'est pas du tout le même rôle.
Soit rendez-vous anecdotique et annoncé comme un événement.
Oui,
ça,
ça peut pas être récurrent, me semble-t-il. C'est de l'ordre du ponctuel pour moi. Enfin, mais non, mais alors ce que Cyril, je croyais que tu disais que c'était casse-gueule de sur la notion de mise en confiance, virgule de soi. Parce que c'est ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure, c'est pas seulement la mise en confiance mutuelle, c'est le renvoi à la confiance de soi, à l'estime de soi. Redisons-le quand même. Alors, je sais pas, en tous les cas, moi je sais pas comment on fait. Mais je pense qu'avec les neurosciences et tout le bazar, etc., on pourrait s'inspirer un petit peu sur la manière de faire, parce qu'on n'a juste pas eu l'occasion de. Si on se donne le temps d'y penser, c'est-à-dire que, Cécilia, tu vas peut-être me dire, ouais, mais je préfère presque une mise en confiance de soi de qualité qu'une visite commentée, par exemple. Enfin, pour aller. Ben, ceci ne peut pas exclure cela, mais je me demande si à un moment. Parce que toi, tu vois toujours les gens en groupe. Moi, je vois déjà la personne et le groupe. Donc, une mise en confiance d'une personne qui arrive, qui prend confiance en soi, qui soit rejoint le groupe pour visiter une exposition, soit seule, est-ce qu'elle a besoin de ce médiateur à tout prix ? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de le voir qu'après ? Enfin, tu vois, c'est des modalités comme ça que j'interroge. Moi, ce qui m'angoisse totalement à titre personnel, c'est de rentrer dans une expo où on m'explique tout d'entrée de jeu. Non, mais j'exagère un peu.
Excusez-moi.
Il faut provoquer un petit peu.
Mais non, mais c'est ton métier. C'est ton métier. Tu sais voir une œuvre, tu sais visiter un musée. Tu es complètement pétri de ça. Donc évidemment, quelle absurdité d'aller chercher un audioguide, d'aller chercher un médiateur, d'aller chercher je sais pas qui. Enfin, je veux dire, ça c'est complètement. Mais comme un plombier, c'est absurde de lui expliquer la plomberie. Donc on ne peut même pas. C'est pour ça que c'est très difficile de penser la médiation quand on est soi-même un expert dans la discipline, parce que du coup, on ne sait même pas ce dont les gens ont besoin. On a oublié le truc premier.
D'accord. Je suis pas d'accord parce que justement, on est immergé et que justement. D'un côté, parce que tout ça est plein de paradoxes, c'est vrai que j'ai passé des années où j'expliquais que c'était l'accès à l'art était facile, et puis des années où je disais que c'était difficile, puisqu'il fallait quand même acquérir. C'est un chemin, une connaissance, et qu'effectivement, j'ai eu la chance, peut-être en tant que professionnelle, de pouvoir y passer du temps. Donc du temps, c'est précieux par rapport à ça. Donc je ne peux pas, en effet, mettre en vrai à la place de quelqu'un d'autre, soyons clairs. Mais si j'essaye un tout petit peu. Donc la familiarisation, l'appropriation, en tous les cas, tout ce qui peut permettre de freiner la crainte, ça donnera l'expérience que ça donnera. C'est vrai que si elle est suivie d'une, deux, trois expériences, si le pluriel arrive, c'est ça qu'on espère. Hein, mm-hmm. C'est presque comment travailler sur le principe de répétition. Mais au bout du compte, je ne suis pas sûre que la divulgation des connaissances rassure faussement. Moi, je suis convaincue de ça. C'est pas à cet endroit-là que j'ai envie de rassurer les gens.
C'est la divulgation de connaissances qu'il faut.
Hein. Non, mais
c'est
justement. Donc je provoque volontairement en disant voilà, c'est pas. C'est sûr que j'ai des personnes de mon âge et plus âgées qui, pour eux, c'est comme ça. Mais pour des plus jeunes, en tous les cas, je sais que c'est pas comme... Enfin, moi, je voudrais que vous me parliez de vos relations à vos jeunes publics, pas seulement les petits, les ados et les, en dessous de 25. Qu'est-ce qu'ils attendent? Comment ils veulent entendre les choses, etc. C'est cela qui m'intéresse.
Ils sont contents, ils ne sont pas en cours, mais déjà.
Après tout, je m'en fous un petit peu des autres. Je préfère travailler sur la position de demain, sur ces questions-là, et de tâtonner. J'adore l'idée de tâtonner, on est bien d'accord. En me disant, bon, est-ce que ça sera de la même manière? En tous les cas, il y a sûrement, au-delà des connaissances, des manières d'être.
Exactement.
Et des savoir-être. Voilà, vous avez parlé du mot savoir, savoir-être. Moi, j'ai envie qu'on parle de ces choses-là. Voilà.
Mais d'ailleurs, moi, une des plus grandes choses qu'on a fait au Musée des Beaux-Arts, c'était...
Parlez les jeunes, pardon.
Ah oui, il y en a quelques-uns qui ont l'air jeunes, en tout cas. C'est derrière le masque.
Allez,
si,
allez.
Moi, je suis plutôt d'accord. Enfin, pour moi, on parlait beaucoup de l'éducation tout à l'heure et de l'enseignement, etc. Et c'est vrai que tout le modèle de l'éducation française, c'est plutôt une transmission verticale du savoir où un prof nous fait un cours et on note et après on a des contrôles dessus et l'élève n'est pas du tout participatif, on va dire. Et je suis assez d'accord pour dire que c'est assez agréable d'arriver dans un musée, de ne pas avoir un discours préconstruit, de ne pas avoir un discours de médiateur, de ne pas avoir de discours.
Un médiateur, c'est pas quelqu'un qui impose un discours, excusez-moi, ça s'appelle un conférencier.
Non, mais pas
conférencier de métier.
Enfin, je trouve ça assez agréable d'arriver dans un musée.
Tu veux dire imposer sa présence en fait.
Oui, voilà. Ne serait-ce que ça, d'avoir sa présence, d'avoir un... comme si. Ne serait-ce même que d'avoir quelqu'un dans la salle qui nous regarde regarder une œuvre d'art, ça peut être dérangeant. Et je trouve que c'est assez agréable d'avoir une liberté totale, une liberté totale de.
C'est ce que tu dis.
Se laisser complètement aller, de ne pas avoir.
La paix. Mmh. Vous jeunes.
Ouais. Oui.
Mais... Sauf s'ils peuvent avoir des demandes, parce que nous on a des bandes de jeunes de banlieue qui déboulent chez nous et qui sont très en demande de plein d'infos. Alors c'est absolument pas ça qu'on voudrait leur transmettre, mais justement, faut leur répondre quand même.
Mais c'est vrai que ça déplace souvent le discours.
Et puis aussi, par exemple, des fois le fait, je parle d'expérience personnelle, le fait d'aller voir quelqu'un et de lui demander des informations sur une œuvre d'art et d'en avoir plein d'un coup, ça peut juste renvoyer à l'immensité des connaissances qu'on n'a pas, et ça peut être aussi extrêmement décourageant.
Ça s'appelle pas de la médiation.
Non, mais
remettons les choses, parce que à force de dire
entre les musées, les guides,
le thème de la journée,
c'est
la transmission.
La médiation, comment on a avancé sur la médiation.
Et oui, ça fait ça, ce modèle-là que vous décrivez, c'est un modèle qu'on a remis en cause depuis 25 ans.
30.
Oui, mais qui existe quand même encore.
On a invité Elisabeth Caillé. Attends, je me permets de. Je suis plus âgée que toi.
Ouais, merci. non, c'est incroyable.
Quand même. Mais non, mais bon, elle est importante dans ces questions-là.
Et oui, mais quand même,
collège de philosophie. On était au début des années 90, quand même, dans ces eaux-là. Enfin,
95, oui. Son bouquin, c'est 95, donc depuis le début des années 90, tu es d'accord?
Voilà, non mais c'était bon, ça reste entre nous, mais du coup, on explique.
Ce que
ça.
Vous décrivez existe tout à fait, existe toujours aujourd'hui, mais ça ne s'appelle pas la médiation.
Oui, non mais
ça. Voilà, c'est ça. Juste, moi, ne mettons pas derrière le
rôle de la médiation, rôle que pourrait avoir pour moi la médiation, ce serait de ne pas tant être une proposition d'une lecture subjective, d'une approche, d'une œuvre, etc., qu'une incitation à. Permettre à chacun d'avoir sa propre lecture.
C'est
parfait.
Ça la médiation. Voilà. Alors elle est super pro de son institution. Elle fait de la pub en permanence. T'es chargée de com ou de...
Oui, mais je rappelle qu'on ne peut pas faire de la médiation sans visiteurs. Donc la com va peut-être un peu avec.
Ah voilà, et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que les gens qui font de la médiation se posent la question des gens qui ne sont pas intéressés par l'art. Et veulent les inciter. Parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup employé le terme de faire des propositions.
C'est majoritairement le public qu'on a dans les gros événements.
C'est des gens en groupe qui sont obligés
pour la première fois, qui découvrent l'art et qui ne sont pas amateurs. La grosse majorité.
Non, mais c'est pour ça que tu es au départ. Parce que nous, c'est vrai que pour qu'ils arrivent chez nous.
Mais c'est quand même un public un peu captif.
Oui, voilà. Parce que je connais énormément de gens qui ne mettront jamais les pieds ici. Chercher à les emmener, à les inciter.
Mais est-ce que... Enfin, pourquoi vous les emmenez ici?
S'ils veulent pas.
Oui, on va. Non, mais il faut poser la question. Pourquoi?
On peut voir la chose.
Non, mais là, ça titille des choses institutionnelles. La notion d'événement, je ne dirais pas plus, quoi. Mais moi, c'est l'événement quotidien que je veux défendre, évidemment. Et évidemment que je préfère que le visiteur il vienne de ses ailes autonomes chez nous parce qu'il aurait décidé tout seul. Mais c'est pas magique. Effectivement, du coup, le rôle de Nathalie est majeur pour arriver. Et ça serait bien qu'on travaille plus ensemble pour justement le moment où on a... Que tu le veuilles ou non, ça, c'est quand même un public super élargi pour la Biennale. Je veux bien qu'à Saint-Fond, ça soit plus complexe, mais...
Ah non, je ne suis pas en train de dire que c'est plus complexe ou pas. C'est des choses...
Il n'est pas très captif.
C'est-à-dire que... Mais bien sûr qu'il est très élargi. De par l'événementiel, je pense qu'il est très élargi, le public.
Mais comment, nous entre l'événementiel et nous...
J'exagère, évidemment.
Bah, c'est bien, parce qu'entre l'événementiel, nous et vous, on peut créer un espèce de triangle d'or... super intéressant.
Ou piéger le visiteur. Avec un billet pour les trois événements.
La question que mademoiselle soulève, nous, elle est fondamentale.
Elle est prégnante, oui.
Oui,
bien sûr. Fondamentale.
Mais alors, si la notion de plaisir est là du début, par chance ou je ne sais pas, par constat, l'événement attire le public. La médiation est forcément bonne.
Non, ça c'est pas vrai.
C'est une blague.
La communication.
C'est une blague. Si on réussit, non, ça c'est une blague.
Mais enfin, si tu faisais si bien ton truc, j'en aurais plein des gens à l'année.
100% n'existe pas, surtout pas en médiation. Parce qu'on parle de rencontres humaines, mais si, du coup, où que ce soit ici ou ailleurs, si vraiment une médiation se base bien, l'espoir c'est qu'il y ait envie de.
Mais pourquoi ils viennent pas chez nous?
Pourquoi il est là? On peut en parler.
Mais non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que... C'est, ok, alors il y a peut-être un transfert qui s'est fait sur le Mac, j'en sais rien. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les retombées de la Biennale, que ce soit pour le Mac et l'IAC, ne sont pas patentes. Donc, je pose la question quand même.
Peut-être, enfin, moi je sais pas, j'ai interviewé aussi les classes qui venaient et leur motivation à venir à la Biennale dans le cours de
On est hors sujet, mais on est sur l'efficacité de la médiation, non, sur la répétition.
Communication aussi.
Mais pourquoi ils viennent à la Biennale aussi? Parce que c'est un événement, vous l'avez bien dit. Il y a beaucoup de classes qui m'ont répondu, on vient parce qu'il faut venir là, parce que ça fait le buzz, parce que dans la presse tout le monde en parle, parce qu'il faut en être.
Un acte social.
Et c'est un acte social, comme dit Cécilia. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, là, quand j'ai interviewé les médiateurs, certains m'ont dit avoir été médiateur volant. Vous connaissez ce terme, voilà, notamment à Nîmes ou dans d'autres lieux, où la force de l'art, c'est un médiateur qui est à disposition dans les salles. Bon, c'est une stratégie,
la dépression du médiateur très vite.
Eh bien, le médiateur en question, souvent, il est assez frustré parce qu'on ne fait pas appel à lui. Alors, certains me disaient, moi, dans la force de l'art, on me demandait où étaient les toilettes, où étaient... voilà, parce que les personnes n'osent pas aussi... montrer entre guillemets leur ignorance ou leur doute ou leur et du coup ça n'est pas facile
surtout en art
voilà. Il faudrait qu'il se fasse passer pour le public et qu'il entame une discussion et médiateur volant, il faut qu'il se fasse passer pour le public.
Oui, ça serait bien.
Nous, on a failli présenter l'œuvre de Tino Segal. Est-ce que Magali, tu peux en faire choisi de ne pas le faire parce que justement on a des médiateurs volants dans l'espace et ils ne sont pas si volants qu'on voudrait, mais justement on n'a pas mis l'œuvre de Tino Segal parce que l'idée chez Tino Segal, explique comment il... Enfin,
donc, c'est une pièce de Tino Segal qui fait partie de la collection de l'IAC qui s'appelle This is Exchange. Mm-hmm. Il y a une personne dans l'espace qui est habillée comme un gardien. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui connaît l'économie internationale et qui engage la conversation avec le visiteur s'il y arrive ou s'il le souhaite. Et si la conversation convient à cette personne, à ce gardien déguisé ou ce médiateur déguisé, alors il donne un coupon au visiteur qui lui permettra de se faire rembourser de la moitié du ticket d'entrée de l'institution.
Non, mais sans parler de ça, pensez à Tino Segal en général. Les modalités des œuvres de Tino Segal, c'est véritablement... C'est pas, je suis désolée Magali, c'est plus intrusif que ça. Les performeurs de Tino Segal vont vraiment à la rencontre des gens. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un côté dérangeant, parfois tu es un petit peu déstabilisé. Quand c'était la stripteaseuse là au Mac pendant la Biennale, mais c'était
ça j'ai vu. C'est vrai que les gens étaient très mal à l'aise.
Voilà. Mais selon les cas, ce que je veux dire, c'est que pourquoi pas aller davantage vers. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est vrai, c'est possible aussi, mais. C'est une autre forme, mais je veux dire,
C'est facile médiation pour les professionnels aussi.
Pour moi, c'est une catastrophe de la médiation. Mais bon. C'est une grande économie pour les institutions parce qu'on fait gardien et médiateur ensemble. Du coup, ça donne gardien ou médiateur, on ne sait plus trop.
Ah, c'est pas une économie. Nous, on a dépensé plus d'argent pour cette
expo. Ah, bah, très bien. Moi, j'aime bien quand on dépense plus d'argent. C'est rare sur cette. Mais la médiation. Oui, mais il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure d'un fil conducteur, d'une. Quand on passe d'une œuvre à l'autre, une exposition, c'est pas une œuvre, une salle, et puis ça n'a rien à voir à côté. Bah,
tout dépend les lieux. Mais tout dépend les lieux. C'est un médiateur violent.
Un médiateur violent. Un médiateur violent était particulièrement juste là, puisque le projet d'expérience de l'œuvre, c'était aussi d'avoir pas seulement une exposition narrative. Enfin, il y avait pas
c'est pas une expo.
Non, donc dans une exposition avec un commissaire et où les artistes sont associés, qui vient raconter quelque chose dans le déroulé même de la visite de l'expo, un médiateur volant forcément est absolument pas performatif, ça ne sert à rien. Mais dans un lieu comme la Force de l'Art ou pour cette expo là. Ça a son sens, malgré tout.
Bah, je peux vous dire que les expériences de médiateurs sur la Force de l'Art,
ça ne marche
catastrophe.
Oui, non, mais la Force de l'Art, après, il faut voir. Enfin, il faut
ça ne fait pas fonctionner.
Ça ne fonctionne pas.
Au sens de... bah, les médiateurs volants, si on prend... alors, moi, les gens du magasin ne sont pas parmi nous, mais bon, pour le coup, c'est la manière dont ils travaillent. C'est une question, mais là, peut-être, elle est un peu trop spécifique, mais comme j'ai fait l'école du magasin il y a très longtemps, mais j'ai eu... longtemps ce rêve que les deux pouvaient se conjoindre. Après, en effet, on peut se poser la question. Alors, comme le temps passe et que je suis bavarde, mais que je voudrais ajouter autre chose en tant que commissaire d'exposition, je voulais reparler de justement ce que tu dis, l'exposition, pas l'exposition, la succession d'œuvres. En tous les cas, l'artiste et le commissaire, au moment où ce projet s'élabore, alors. Un autre débat sur l'artiste et le commissaire plus tard, on verra si vous voulez. Mais c'est quand même déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois, de mon point de vue, l'exposition peut être une œuvre en soi, point d'interrogation, et à la fois un dispositif de médiation en soi. Et c'est pour ça que moi-même, en tant que commissaire, je suis là aujourd'hui, parce que je me sens... Je ne veux pas me sentir trahie non plus par la question de la médiation, c'est-à-dire au regard de l'artiste. C'est-à-dire que s'il y a une notion de traversée dans les œuvres, je ne parle pas de protocole scrupuleux à l'ancienne, mais au moins, ça, beaucoup d'artistes n'ont qu'une envie, c'est qu'on traverse leurs œuvres déjà de façon effectivement beaucoup plus sensorielle et physique. En tous les cas, les artistes que je présente. Que nous présentons. Donc, si on peut respecter ça déjà, c'est au-delà d'avoir une idée préconçue de la médiation. Moi, ce que je peux transmettre des artistes, c'est au moins cette notion. Parce que le moment de l'exposition, c'est pas un petit saucisson coupé en. C'est un tout, l'exposition. C'est un ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'est pas une exposition ici, puisque c'est une succession d'espaces, d'œuvres et d'expériences.
Malgré tout, le visiteur, il va faire du lien.
Mais ça, c'est
son problème.
C'est moi qui dis que c'est pas une expo parce que ça m'amuse de le dire, mais je l'ai pas énoncé parce que c'est difficile à communiquer.
C'était la première biennale dans l'amour de l'art où il y avait des portes, on ouvrait.
Mais ça fait des siècles, de Zeman à nos jours qu'on se pose ces questions-là. Mais n'empêche que effectivement, dans le propos de ce que disait Cyril, à un moment une exposition, un projet, un commissaire, c'est médiateur voulant ou pas, mais enfin dans tous les cas c'est important d'en respecter le pacte, j'allais dire, qui nous rassemble entre artistes et récepteurs, quoi. Ne serait-ce que ça, rappeler ça. Et parfois nous à l'IAC on est parfois trop proche de l'artiste et je me dis zut, pour prendre un peu le... c'est aussi cette position là de dire on va pas trahir son propos et du coup on va transmettre non pas des connaissances ni même des savoirs, c'est-à-dire la parole de l'artiste.
Et c'est la difficulté de l'art contemporain. Enfin,
c'est ça. C'est de toute façon, c'est le manque de recul.
Ouais, l'artiste est vivant et sa parole est plus légitime qu'une autre, a priori.
C'est ça.
Mais c'est pas la même, en fait. C'était une grande question. Alors là, dans les années 90, c'était effectivement, est-ce que l'artiste est le meilleur médiateur de l'œuvre? Et moi, je pense que ça n'a rien à voir. C'est pas un médiateur. L'artiste, c'est le créateur. Donc, c'est quelqu'un qui va effectivement pouvoir, par sa communication, par sa capacité ou non, parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas, mais à faire partager quelque chose de sa création, de son acte de création. Et par contre, ça ne retire en rien le rôle d'un médiateur. Et Et l'image que je donne maintenant aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre médiation artistique et médiation culturelle. La médiation culturelle porte bien son nom. Elle fait passer dans la culture l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du passage à la culture. C'est-à-dire de la façon dont les gens vont s'approprier culturellement ces objets étranges et étonnants, en plus neufs, nouveaux, artistes d'aujourd'hui. Et comment ils vont pouvoir l'intégrer dans leur culture, quoi. Et en tisser de la culture avec. Donc il y a deux médiations qui sont totalement... Il ne faut pas confondre et pas vouloir, je ne sais pas quoi, l'une remplace l'autre, je ne sais pas quoi.
Bon, en effet, c'est bientôt l'heure. On a décidé de ne pas faire... est-ce que, je ne sais pas, Anne, tu veux dire quelque chose?
Justement, dans les... sur la dimension participative, là, vous allez dans ce que... Enfin, ce qui vous... rassemble avec Fabien et que vous allez nous présenter, est-ce que vous aurez...
Non, on va aborder quelques questions.
Oui, d'accord.
Quelques sources, plutôt.
Oui, c'est ça. On va faire court quand même. Pourquoi,
on va essayer de faire court quand même.
En fait, on va faire du développement très... C'est une mini-performance.
Une mini-performance.
Un bébé.
On va aborder... Oui, on va parler de nos sources.
D'accord. Donc vous avez compris que les modalités de cette table ronde ou je ne sais quoi, journée, étaient peu conventionnelles, donc on n'a pas prévu de faire une conclusion, puisque tout a été enregistré, vous aurez tout en permanence.
Mais c'est vrai que le participatif va un petit peu à l'encontre de ce que tu disais.
Que c'est une petite
partie.
Ouais. Ouais. Moi, je me demandais simplement, ce ne sera pas une conclusion, mais si après le médiateur volant, il ne pouvait pas y avoir un commissaire violent qui expose sans se préoccuper de médiation.
Ça, c'est la majorité des commissaires. Surtout maintenant, justement, quand tu faisais la distinction au début, moi, je me sens vraiment de la vieille génération, parce que je me sens vraiment tout à la fois responsable d'un lieu, médiatrice, commissaire d'expo. Ben, tout ça, c'est complètement lié pour moi. Mais je ne pense pas que ce soit le cas...
Tout dépend des structures. Enfin,
Non, c'est par rapport aux gens qui ont moins de 30 ans, il faut faire la différence.
Ah. Oh, même moins de 40, ouais.
Enfin, disons que mon équipe, là, est sympathique, etc., si je fais pas la différence...
Ça dépend aussi, c'est tout simplement...
Après, on s'embrouille.
Ça dépend de la grosseur des structures, il n'y a pas...
C'est l'évolution du métier.
Mais pas seulement. C'est aussi que dans une petite structure, de toute façon, moi, j'ai toujours été dans une petite structure, donc j'ai toujours eu l'habitude de traiter tout ça en même temps. Et je trouve ça plutôt bien, justement.
Je suis d'accord, mais effectivement...
Parce que les questions surgissent en même temps.
L'IAC, qui était une, c'est vrai qu'historiquement, c'est une des premières à s'être professionnalisée dès 92, etc. Elle reste encore, avec le magasin, dans cette échelle. Rappelons que par rapport au spectacle vivant, c'est une petite échelle, mais bon, néanmoins. Et en effet, mais moi, je le vois bien, parce que je ne voulais pas l'entendre, cette idée de... Là, on parle de nos métiers, désolé, mais bon, moi aussi, à l'origine, je ne suis pas d'une génération différente. C'est le même esprit. Et en revanche, à l'Institut, parce que ça a tendu vers, en effet, plus de personnes. On n'est que 13, mais on est déjà 13. On est amené à déterminer des rôles et on a contribué à la professionnalisation de ce milieu. Et du coup, les plus jeunes arrivent avec je fais tel job et pas tel autre. Et puis, la notion de commissaire d'expo, je suis désolée, en 30 ans, elle a super évolué.
Ah oui.
Et celle-là, elle est devenue quelque chose qui, pour nous, était induit. Et si on n'avait pas remis un petit peu du mot commissaire sur nos activités, on ne parlait que du commissariat indépendant. Et donc, moi, j'ai bataillé pendant ces dernières années pour faire admettre qu'un directeur de structure était aussi un commissaire. Enfin, il me semble. Voilà, donc ça, c'était bon. Je suis désolée, mais...
Bon, on peut s'arrêter. Charlotte, peut-être tu donnes le déroulé de la suite.
Oui, étant donné qu'on a bien usé nos bouches, nos salives, etc., on propose un petit apéro, un petit pot,
apéro.
Au niveau
expérience sensorielle.
Au niveau de l'entrée, donc sous la verrière. Et je pense qu'on fera probablement le lancement là-bas, si c'est ce qui convient, et la performance.